Voilà, ça c'était notre botte d'enregistrement.
Ah, une voix impressionnante.
Ouais, ça pose son... Alors son ours, non, c'est une belette. Bon, voilà.
D'accord.
Et puis on est bon. Du coup, là on est dans le vocal livre blanc. Juste au-dessus de nous, il y a un chat livre blanc, c'est le chat textuel qui est lié au vocal. Du coup, c'est là où tous ceux qui sont là ce soir présents vont écrire, réagir, s'ils ont des questions à te poser, s'ils souhaitent réagir à ce que tu dis ou si tu veux échanger. Donc, ou bien de temps en temps, tu peux regarder ce chat si tu veux. Sinon, t'en fais pas, nous on fera remonter quelques questions ou quelques interventions.
Attends, tu dis qu'il était où le chat ?
Eh bien là, tu vois, on est dans le vocal livre blanc.
Ouais, et livre blanc.
Juste au-dessus, il y a un salon qui s'appelle chat livre blanc.
Ah ok, d'accord. Donc c'est en dehors.
Oui, c'est ça. Il faut que tu cliques sur le salon textuel pour voir ce qui défile dedans. Et ça n'empêche pas que tu es toujours dans le vocal.
D'accord.
Qui est juste en dessous.
Ok.
Là, tu vois, il y a des gens qui te disent bonsoir Anaïs, coucou Anaïs et tout. Tac, tac.
Ah, c'est gentil. Les gens sont gentils.
Oui, ils sont très bien élevés. Bon, on avait dit 21h, on peut encore attendre si tu veux 5 minutes avant de vraiment commencer.
Comme tu préfères. Je fais...
Ouais, tac. On va attendre 5 petites minutes, le temps que tout le monde se pose, que tu prennes tes marques tranquille, que tu prévois une ou deux boissons à côté, ou une tisane, ou avec un peu de miel pour la gorge, parce que tu vas peut-être beaucoup parler. Et puis, pour voir avec toi aussi, ouais, comme tu préfères commencer, est-ce que, par exemple, t'avais peut-être préparé, je sais pas, un petit début de présentation ou quelque chose comme ça, ou pas du tout, ou bien tu préfères qu'on pose directement des questions? Est-ce que t'avais projeté quelque chose de particulier?
Y a des gens qui n'ont pas fini leur dessert et leur vaisselle.
Voilà, c'est ça, ils vont y aller, ils vont se dépêcher.
Non, j'ai rien prévu parce qu'en fait, je suis partie du principe que, comme ce que je dis habituellement, je l'avais déjà dit sur Thinkerview, et que du coup, de manière peut-être un peu fautive, je me suis dit qu'une partie des gens avaient été des habitués à écouter Thinkerview, donc peut-être qu'ils n'ont pas écouté, mais que j'avais peur que ce soit un peu redondant avec ce que j'avais déjà dit, même si on dit que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et en même temps, dans les questions, je me disais que c'était aussi un moyen de, enfin, qu'on allait raccrocher plein de choses. Ouais. Et que c'était peut-être le moyen d'être plus dans le direct du sujet. Après, je précise que je n'ai pas réponse à toutes les questions.
Ok, on peut faire comme ça. On peut commencer avec quelques questions qui ont déjà été posées en amont. Et puis, ça fera office de lancement ou de fil conducteur. On verra bien comment ça rebondit après. Ouais, on va faire comme ça.
Ok.
Alors, fais voir, elles étaient où ces questions?
Non, il y a quelqu'un qui me demande ce que je pense du bagne.
Ben voilà.
Je peux déjà répondre à cette question.
Allez,
qui était une des questions qui était posée. Et du coup, qui ne m'a pas surprise, mais si c'était le bagne, au sens du bagne. Non, mais plus sérieusement, je suis en effet pour des sanctions pour les personnes qui vendent de manière tout à fait... consciente des actifs stratégiques pour la France et qui participent au démantèlement de l'industrie. Et il y avait notamment, par exemple, dans le cas de J.J. Alstom, la question se pose de manière tout à fait légitime. Et d'ailleurs, on voit que c'est compliqué de sanctionner les responsables parce qu'il y a en fait tellement de gens qui ont été partie prenante dans cette affaire que... c'est pas simple que le député Olivier Marleix, qui a lancé la commission d'enquête sur le sujet, a lancé à titre personnel, je crois, des poursuites. Il a saisi le parquet, mais j'en sais pas plus sur là où on en est dans cette saisine. Il y a Arnaud Montebourg qui, du temps où il était encore candidat à la présidentielle, avait déclaré qu'il était pour créer un délit de trahison économique. Et en fait, je pense qu'on a des choses dans le code pénal qui permettent d'apporter une réponse. Notamment, c'est l'article 411-5 du code pénal qui dit le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents lorsqu'il est nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Alors après, on peut se demander si 10 ans d'emprisonnement ou 150 000 euros d'amende, c'est suffisant. Mais il y a un très gros avantage avec l'existence de cet article. C'est comme il a été introduit dans la loi en 1992. On peut avoir un effet rétroactif. Alors que si on crée un nouveau délit, il me semble que ce serait compliqué d'avoir une rétroactivité. La définition, elle est très large, parce que quand ils disent s'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou une entreprise ou une organisation, bah ça veut dire que tu peux aussi toucher des fonds d'investissement qui pourraient se rendre coupables de certains délits. Et après, ce qu'il faut qualifier, c'est qu'est-ce qu'on entend par porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Parce qu'on peut avoir une appréciation très large, et j'étais assez surprise, mais j'avais une discussion il y a pas très longtemps. Enfin, j'estime que la vente de la branche énergie d'Alstom à GE était vraiment un traumatisme national. Et il y a des gens qui, je pense, en toute bonne foi, considèrent que en fait, c'était courageux de vendre cet actif stratégique. Donc il y a aussi derrière des questions un peu idéologiques et voilà, comment est-ce qu'on définit ce qui est, enfin ça pose plein de questions sur qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce qui n'est pas, comment on opère ça. Mais en tout cas, je pense que le fait que les actes puissent être vraiment punis obligerait certains à être peut-être un peu plus consciencieux et dans leur approche des choses.
Est-ce que tu sais si cette peine a déjà été appliquée pour le coup?
Il me semble qu'elle n'a jamais été appliquée pour ce type d'affaires de vente de fleurons nationaux.
Parce que j'ai envie de dire, un exemple, ça ferait un exemple, quoi. Ça en calmerait peut-être certains.
C'est ça. Mais ce qui, je pense que, par exemple, l'affaire J.L. Alstom, vu le bruit qu'elle a eu, parce que c'était quand même... il y avait une question là-dedans, dans le chat que j'ai vu, qui disait, est-ce qu'il y a eu... Quelles sont les parts industrielles qui sont dues à une vente sous l'accord de personnes politiques? Donc, en l'occurrence, les personnes politiques, c'est forcément le gouvernement. Et il y en a eu beaucoup. Il y a eu Alstom, il y avait les turbines à gaz en 1999. Donc, il y a eu la branche énergie, notamment avec les turbines Arabelle qui sont nécessaires quand on veut construire des centrales nucléaires en 2014. Mais il y a eu aussi un sujet autour de Technip. Et bien avant, il y a eu la vente de Péchiné à Alcan, avec une OPA hostile. D'ailleurs, Sarkozy avait déclaré que c'était une vente qui s'était faite, donc personne ne lève le petit doigt. Il y a eu le cas d'Arcelor qui a été absorbé par Mittal. Il y a eu Alcatel, qui a été vendu à Nokia. Il y a eu aussi la question des chantiers de l'Atlantique, et notamment avec, en 2017, la vente de STX France à Fincantieri. Et globalement, avant Alstom, il y a eu peu de réactions à la vente de ces fleurons. Le démantèlement s'est fait de manière plutôt tranquille, parfois même sous l'influence des réglementations européennes, parce qu'on voulait lutter contre les phénomènes de concentration. D'ailleurs, quand il y a des opérations de fusion en Europe, souvent la Commission regarde, c'était le cas dans l'opération rapprochement Alstom-Siemens. Alors après, on pense qu'on veut de l'opération Alstom-Siemens, son rapprochement, les conséquences sur l'emploi, etc. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de regarder le périmètre d'appréciation de l'Union européenne. Et l'Union européenne, elle a regardé la concurrence à l'échelle du continent européen. Elle n'a pas du tout intégré la concurrence, par exemple, de groupes chinois qui sont beaucoup plus soutenus par leur État que ne sont les entreprises européennes. Donc, c'est malheureusement souvent assez... Je vais pas dire que tout le monde s'en fout, mais il y a plusieurs ventes d'actifs qui se sont faites, et même parfois de pépites industrielles, et qui font pas réagir, parce qu'on les connaît pas, parce qu'on était aussi dans l'air où on se disait bah, l'industrie, c'est pas utile, et qu'il a fallu une crise mondiale, X rupture d'approvisionnement, et qu'on voit des médecins en surboost sac poubelle pour se dire... l'industrie, c'est peut-être utile. Après, je ne dis pas que tout le monde raisonne comme ça. Hein. Il y a aussi plein de gens qui ont toujours dit qu'il fallait réindustrialiser, mais les gros des acteurs politiques, l'industrie, ce n'était même pas au cœur de leur programme.
Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de réagir là, chaud, à ce que vient de dire Anaïs, par exemple? N'hésitez pas. Mais du coup, Anaïs, tu avais déjà bien épluché les questions dans le chat, c'est bien?
J'ai regardé. Non, mais j'essaye d'être sérieuse parce que il y a des gens. Enfin, en fait, les questions parfois sont très précises Et du coup, ça demande quand même d'aller rechercher un peu des chiffres ou autre. Bon, après, je démystifie un truc, hein. Je ne suis pas du tout spécialiste d'énergie et EDF et le projet Hercule, je ne serais pas apte à vous en parler. Donc, je peux vous dire que le fait que EDF se soit condamné, enfin obligé, pas condamné, mais obligé à racheter la branche énergie d'Alstom à GE, c'est une erreur industrielle, à mon avis, parce que c'est un producteur d'électricité, pas du tout un acteur industriel. Mais sinon, voilà. Je les regarde les questions. Enfin, les ré réactions.
S'il y en a qui veulent intervenir, le vocal est en push to talk, hein. N'oubliez pas, il faut que vous alliez activer une touche pour activer votre micro.
Bonsoir. Moi, j'aurais une question par rapport à la rétroactivité de la loi pénale, qui normalement est un principe comme quoi il n'y a pas de rétroactivité. Est-ce que tu pourrais nous donner l'article en question qui permet cette rétroactivité?
Alors c'est une bonne question en fait. Je disais, est-ce que je le mettais avec des nuances. Excusez-moi si j'ai pas mis assez de nuances, mais c'est l'article 4. Alors moi je connais l'article 411-5. La question c'est est-ce qu'on pourrait la, le, enfin est-ce qu'on peut, enfin quand je dis la rétroactivité, est-ce qu'on pourrait l'utiliser aujourd'hui pour des poursuites sur GE Alstom? Et donc, j'avoue pas forcément avoir la réponse exacte et il y a peut-être des modifications à opérer. Donc, merci de souligner ça.
D'accord.
Raph, on parle pas de rétroactivité. Est-ce qu'on m'entend?
Oui.
Oui.
On parle pas de rétroactivité vu que la loi date de 92 et que les faits datent des années 2010 et plus. En fait, on parle de à quel point on peut attaquer quelqu'un après les méfaits. Et en fait, du coup, cette loi, enfin, il n'y a pas de rétroaction dans les lois françaises, évidemment, parce que c'est anticonstitutionnel.
Ouais, en fait, ouais, je me perturbe moi-même. Si on crée un délit maintenant, on ne pourra pas l'appliquer sur des actes qui sont survenus avant la création de cette loi. Mais le fait qu'une loi existe déjà, ça permet on peut s'appuyer sur ces articles de loi pour aller attaquer des personnes qui ont déjà commis des délits. Je ne sais pas si c'est plus clair.
Oui, non, mais c'est juste en fait que je réagissais par rapport à la rétroactivité de la loi pénale, sachant que c'était un principe de droit et je comprenais pas en fait comment ça se faisait que cette loi puisse être rétroactive. Voilà, c'était juste ça. Mais merci pour ces précisions.
Alors, tiens, il y a une question là de Princeps à la volée. Quels partenaires internationaux dans l'optique d'une politique de réindustrialisation en France, l'Union européenne permet-elle de réaliser une telle perspective?
Ah, il y avait eu des questions aussi sur l'Union européenne dans le chat. Et c'est toujours les questions les plus, je vais pas dire les plus difficiles sur l'Union européenne parce que moi je suis vraiment une européenne convaincue. Et d'ailleurs, souvent on me le reproche. Enfin, d'ailleurs, après Thinkerview, dans les grosses attaques que j'avais eues, c'était des gens qui disaient que j'étais trop scolaire parce que bah, je dénonçais pas, enfin, je disais pas qu'il faut sortir de l'Union européenne ou il faut sortir de la zone euro.
Ouais.
Mais en même temps, croire aux principes européens ne veut pas dire qu'il ne faut pas être lucide. Et quand on est lucide, c'est un peu difficile de se dire qu'on va s'en sortir dans le cadre européen pour différentes raisons. Déjà, bon, si on regarde un principe assez factuel sur la balance commerciale française, elle est très déficitaire, hein. On pourrait approcher les moins 100 milliards en 2021, mais quand on regarde le détail, en fait, on se rend compte que notre balance commerciale, elle est excédentaire à l'égard des pays en dehors de l'Union européenne et elle est largement déficitaire à l'égard des pays de l'Union européenne, en premier lieu à l'égard de l'Allemagne et de l'Italie. Donc, il y a une compétition au sein de l'Union européenne et des États membres, notamment avec un dumping fiscal, avec des jeux sur la fiscalité, notamment l'impôt sur les sociétés, avec certaines entreprises enfin certains États qui ont abaissé très fortement leur taux d'impôt sur les sociétés au cours de ces 10 ou 15 dernières années pour attirer des activités de siège. Donc c'est un peu une concurrence malsaine entre les États membres. Et il y a un dumping social qui se traduit notamment avec un coût horaire du travail qui va varier de quelques euros en Bulgarie, à presque 40 euros en France ou en Allemagne. Donc, on parle souvent du dumping exercé par les États asiatiques, en premier lieu surtout la Chine, mais le premier dumping, il s'effectue à l'intérieur du cadre européen, avec une harmonisation des normes. Et quand on regarde, par exemple, les normes environnementales, notamment dans le domaine de l'agriculture, on se rend compte que les normes imposées à la France, en France, ne sont pas exactement les mêmes que les normes espagnoles. Et donc, plus on met des normes, et on est très content d'avoir des normes environnementales élevées, et en même temps, ça crée un déficit de compétitivité qu'on ne rééquilibre pas. C'est-à-dire, quand on investit dans certains sujets, pour moderniser par exemple l'outil productif, pour avoir nos hauts standards environnementaux, on n'investit pas forcément ailleurs, et donc il y a un enjeu de rééquilibrage, au moins à l'échelle européenne. Après, il y a aussi le fait que l'Union européenne, elle a du mal à avoir, alors c'est pas son rôle d'avoir une politique industrielle, elle n'a pas de compétences exclusives en matière de politique industrielle, mais on voit bien qu'il y a des difficultés à s'entendre. Par exemple, quand on regarde d'un côté l'ambition de Thierry Breton, qui est commissaire au marché intérieur, de développer l'industrie des semi-conducteurs en Europe, ce n'est pas forcément la vision des autres commissaires. Ça peut se heurter à d'autres politiques. Notamment, on parle beaucoup d'autonomie stratégique de l'Europe, et en même temps, quand on voit le Green Deal, on se rend compte que tout le développement d'énergie renouvelable, tout ce Green Deal va contribuer à renforcer la dépendance du continent européen à des tiers, et notamment à la Chine, puisque la Chine aujourd'hui, dans les matières premières critiques, donc que ce soit le lithium, le cobalt, etc., elle n'est pas forcément le premier pays producteur, mais elle est très souvent le premier produit en termes de raffinage. Et je pourrais renvoyer les études par la suite à ceux que ça intéresse. On a une politique de la concurrence qui ne favorise pas forcément le développement de nos entreprises. On a un contrôle des aides d'État qui est très, très strict, même si je pense que la France est un peu plus bon élève que d'autres. On a les projets importants d'intérêt économique européen qui sont un mécanisme qui ont pour but de promouvoir l'innovation dans des industries dites stratégiques et d'avenir à travers des projets transnationaux. Et ces projets d'intérêt économique européen, ils ont l'intérêt de pouvoir contourner les mécanismes d'aide d'État. Pour ajouter à la liste, la longue liste, sans vouloir non plus faire du mal à l'Union européenne, mais montrer en fait que les logiques aujourd'hui en cours dans l'Union européenne, c'est quand même les principes de concurrence libre et non faussée. On veut préserver le consommateur, mais à un moment, si on crée plus de vie, enfin, en tout cas à l'échelle française, si on ne crée plus de valeur sur notre territoire, on aura beau protéger le consommateur, on sera plus capable de consommer d'une certaine manière, en le disant de manière un peu exagérée, mais on voit aussi que l'Union européenne c'est une incapacité des États membres. Et en fait, c'est là où je mets toujours l'union, c'est qu'on dit toujours c'est l'Union européenne. Non, l'Union européenne, en fait, c'est quand même toujours la résultante des décisions des 27 États membres au sein du Conseil de l'Union. Et on voit que sur des sujets qui me semblent vraiment stratégiques, comme par exemple la capacité à faire émerger des entreprises européennes stratégiques, notamment dans le domaine du numérique, qui repose toujours sur des infrastructures physiques et des principes industriels, on a une incapacité de nos acteurs européens à parler ensemble. Un bon exemple, c'est Huawei avec le développement de la 5G. On a des États qui interdisent Huawei, d'autres qui acceptent, d'autres comme la France qui sont un peu dans un comportement bipolaire, avec d'un côté le gouvernement qui veut pas parler, enfin, qui pendant longtemps ne voulait pas parler à Huawei, et la région Grand Est qui permet à Huawei de s'implanter. Alors qu'on a des acteurs européens qui maîtrisent, enfin qui sont capables de se positionner sur la 5G avec Nokia et Ericsson. Et à un moment, la question, elle se pose de fermer peut-être les frontières européennes à certains acteurs étrangers parce qu'on considère qu'ils ne respectent pas un certain nombre de valeurs qu'on a définies, et donner aussi les moyens à nos acteurs de croître. Parce que quand on dit on n'a pas de solution numérique viable en France, en Europe, en France et en Europe, c'est bien, mais à chaque fois qu'il faut développer quelque chose, on dit bah non, on va pas les prendre parce qu'ils n'ont pas la robustesse, ils n'ont pas l'expérience, etc. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Tant qu'on ne donne pas à nos acteurs industriels, quel qu'il soit, le soutien dont ils ont besoin pour arriver à une certaine maturité, qu'on ne leur donne pas des cas, des commandes pour se développer et se renforcer, c'est la porte ouverte à tout. Et sur cette incapacité des acteurs européens à parler d'une seule voix, on l'a vu avec la taxonomie, notamment sur le nucléaire, est-ce que c'est une énergie de transition ou pas ? Après, j'exclus l'avis qu'on peut avoir sur le nucléaire ou pas, mais bon, en France, on a un gouvernement aujourd'hui qui est plutôt favorable au développement du nucléaire, et on voit bien que bah, nos intérêts à nous se heurtent avec les intérêts de l'Allemagne. La même question se pose sur la taxe carbone aux frontières. Aujourd'hui, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières serait plus à même de créer une nouvelle vague de désindustrialisation, à mon avis, que vraiment nous renforcer, parce qu'on le positionne sur des matières premières, notamment l'aluminium, le ciment, l'acier, j'oublie toujours le dernier. Le ciment, vous pouvez mettre toutes les taxes carbone aux frontières que vous voulez, de toute façon, on ne va jamais produire du ciment en Asie pour construire des maisons en France. Mais pour l'acier et l'aluminium, c'est tout à fait possible, et le risque, c'est que comme on le positionne sur ces intrants-là, on se retrouve dans une situation, et bien on se dit très bien, on va produire les produits qui nécessitent de l'aluminium ou de l'acier au loin, et puis on remportera sous forme de produits finis, puisque les produits finis, a priori, ne seront pas forcément taxés. Donc il y a un enjeu de positionnement de cette taxe qui est clé. Et il y a aussi la capacité à mettre de la réciprocité dans les échanges internationaux, c'est la réciprocité dans l'accès au marché public, c'est avoir une entité qui a un vrai rôle géopolitique, qui est capable de conduire des rapports de force autrement qu'en interne, qui remet un peu de l'ordre, il y a sûrement des choses à faire sur les règles de la majorité absolue, parce qu'on arrive toujours sur un consensus à minima, et puis il faut que la France, elle soit capable de jouer le rapport de force aussi, parce qu'on voit très bien un pays comme l'Allemagne s'est très bien joué sur à la fois la diplomatie européenne sur certains sujets et la diplomatie allemande. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir la diplomatie européenne qui va faire le premier coup et la diplomatie allemande qui va faire le deuxième coup. C'est notamment ce qui s'est passé quand Biden a voulu mettre certaines contraintes sur l'automobile. La diplomatie européenne est intervenue et la diplomatie allemande a dit bah très bien, on peut pas vendre si on peut pas vendre ou produire un véhicule chez vous, on ne vous achète pas d'avion. Et nous, on est un pays très naïf et on a des acteurs qui préfèrent dire c'est de la faute de l'Union européenne si ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas qu'elle est toute blanche, hein, encore une fois. Je pense juste qu'on a des politiques qui sont souvent peut-être un peu mous du genou, qui n'ont pas de vision et qui préfèrent se cacher derrière leurs petits doigts plutôt que de se remonter les manches et agir.
Mmh. Alors, il y a déjà beaucoup de questions, beaucoup qui veulent intervenir. Donc, on va donner la priorité à ceux qui interviennent en vocal. Et puis après, on posera la question qui a reçu le plus de votes. Alors, il y a Bento qui voulait intervenir en vocal. Vas-y, Bento.
Bonjour. Une petite question vis-à-vis des collaborations qu'on peut avoir vis-à-vis des gros industriels européens en général. C'est-à-dire, ce qui est possible en général, typiquement, on rapproche souvent Alstom de Siemens parce qu'ils ont... Ils sont parfois concurrents sur des marchés similaires ils ont des technologies qui peuvent être amenées à se ressembler, quoique. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas essayer de justement se positionner sur différents emplacements des chaînes de valeur et aller chasser en meute parce que Siemens et Alstom, c'est quand même deux grosses sociétés industrielles. Mais par exemple... sur les réseaux, on pourrait avoir effectivement Orange et Nokia qui peuvent travailler ensemble parce que Orange a vraiment beaucoup d'expérience sur le déploiement et le maintien d'infrastructures et Nokia a des cadres sur l'innovation. Mais à quel point on peut faire ça et à quel point, un peu comme Airbus, on peut finalement avoir des discussions de ce genre et est-ce que c'est finalement un combat de coq entre États? Ou bien est-ce qu'on pourrait avoir des cadres ou des outils qui permettent d'avoir des cadres où on peut discuter de ce genre de sujet et finalement être un peu plus dans la collaboration pour aller conquérir des marchés internationaux plutôt que dans la bataille au sein de notre zone économique.
C'est une bonne question, parce qu'en fait, quand tout le monde parle de reconstruire des champions européens, etc. J'ai pas forcément craqué le sujet, hein. Je le dis en toute honnêteté. Pas d'être que je revienne après 10 nouvelles années de recherche pour creuser tous les sujets. Mais
enfin, faut pas se sentir obligé de répondre si jamais voilà, on n'en sait pas trop, mais juste voilà, deux trois impressions ou juste deux trois infos, ça serait pas mal. Mais enfin, je comprends si jamais. Enfin, la réponse, je sais pas, c'est une très bonne réponse aussi. Hein.
En tout cas, j'essaye de dire quand je sais pas plutôt que d'inventer des réponses. Non, mais parce qu'on dit toujours oui, on voit tout le monde qui dit qu'il faut créer de grands acteurs européens, blablabla, blablabla. Alors, on a les contraintes fixées par la commission et les règles de la concurrence. Et en même temps, Airbus, c'était quand même aussi l'initiative privée. Et la question que ça pose, c'est la capacité des acteurs européens, notamment de nos grands groupes, à aller s'associer avec d'autres dans une démarche de coopération et pas de fusion-absorption. Et j'ai un peu le sentiment que c'est pas forcément, enfin, il n'y a pas forcément le sentiment de se dire que si on coopère entre alliés européens pour faire face au reste du monde, entre guillemets, que ce soit une culture qui se développe, je me demande parfois dans quelle manière on ne voit pas autant une entreprise allemande ou italienne comme un rival, comme on le voit pour les entreprises américaines ou autres.
Ok, il y avait une question qui a reçu pas mal de votes là, c'était une question de Princeps. Quelle place des DOM-TOM dans une politique de réindustrialisation en France? Comment éviter de reproduire des logiques néocoloniales comme à l'après-guerre?
Comment recréer des logiques néocoloniales dans l'après-guerre?
Comment éviter.
Pardon. Je me disais comment. Je commençais à avoir un peu peur.
Et du coup, voilà, la place des DOM-TOM dans une politique de réindustrialisation, est-ce que ça te parle?
J'ai eu plusieurs questions. J'ai eu plusieurs questions à chaque fois sur les DOM-TOM. J'avoue que je ne les ai jamais vraiment abordées. Dans mes réflexions, et c'est un défaut, parce qu'en fait c'est un truc ultra métropolitain que d'ignorer ce qui se passe en dehors, alors qu'il y a à mon avis un levier à la fois dans les richesses dans les richesses qu'ils ont, dans leur développement. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est toujours comment est-ce qu'on contribue aussi au développement des territoires français, quels qu'ils soient. Et la question, par exemple, si je vais plus loin dans les logiques néocoloniales, moi, il y a un enjeu quand on parle des matières premières. On ne sera pas capable d'être autonome, même si on sait qu'on a des ressources sur notre territoire. Par exemple, le lithium, on sait qu'on en a en France, mais c'est comment est-ce que la France et plus largement l'Europe arrivent à aider au co-développement d'entreprises nationales pour l'exploitation de ces matières. Et quand on discute avec la Commission, je trouve qu'ils n'ont pas du tout de réflexion mature sur le sujet. Que globalement, on a un peu abandonné certains. Enfin, encore une fois, hein, je ne suis pas plus sur les DOM-TOM là, mais on a abandonné certains pays aux griffes de la Chine, qui a reproduit des logiques pas forcément plus enviables que les nôtres. Et on n'arrive pas du tout à avoir de vision stratégique là-dessus. C'est-à-dire que le moment où il fallait mettre de l'argent pour aider, on ne l'a pas fait. Et voilà. Et les DOM-TOM sont, à ma connaissance, enfin, je trouve assez peu intégrés dans les réflexions. Quand on parle des régions, on parle des 13 régions françaises et on ne s'intéresse pas forcément à ce qui pourrait se passer. D'ailleurs, quand on parle des DOM-TOM en France, c'est souvent quand il y a une crise, hein. Quand il y a des émeutes, c'est rarement pour des questions positives ou le tourisme.
Ah, quelqu'un voulait intervenir en vocal, je peux entendre une voix. Non. Bah, sinon, il y avait Mister Yellow qui souhaitait intervenir dans le vocal. Vas-y, Mister.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Anaïs. Ma question, c'était de se dire, au vu du marché ultra concurrentiel dans lequel on est avec la mondialisation, qu'est-ce qu'on avait encore comme levier pour faire comprendre non seulement à l'Europe, mais aussi donc à la France dans ce cas-ci, les leviers qu'on pouvait avoir pour redynamiser, réindustrialiser, en sachant que, comme tu viens de l'expliquer, on sera toujours amené à avoir besoin de matières premières qui viennent de l'étranger, que tout n'est pas faisable en termes de réindustrialisation. Et donc, qu'est-ce qu'on a encore comme levier efficace pour combattre et les États et la politique européenne?
Comme levier, y a déjà le fait de se. Enfin, est-ce qu'on a, on a des. Alors, à l'échelle française et même à l'échelle européenne, on a des leviers, mais il y a un truc qui m'a. Il y a deux choses qui m'ont frappé dans l'actualité récente, qui je trouve en disent assez long sur la perte de puissance de la France et sa capacité à pouvoir entretenir des rapports de force. C'est notre ministre de l'Industrie qui, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, écrit une tribune dans Le Monde disant on ne peut plus accepter des produits qui rentrent sur notre territoire et qui ne respectent plus nos normes environnementales et sociales. Et qu'un académique écrive ça, éventuellement un politique peut le comprendre. Enfin, un académique, je peux le comprendre, parce que c'est le propos, ça a été lié. Un politique, pourquoi pas. Mais un politique au pouvoir, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, je trouve que ça en dit long sur un peu sur le tâtonnement. C'est même pas une tribune qui a été publiée dans les 27 grands journaux. C'est quelque chose qui traduit un peu cette impuissance. C'est-à-dire qu'on le sait, ça fait des années que des gens disent c'est plus possible, il faut de la réciprocité. Maintenant, que fait la France quant à la présidence de l'Union européenne pour changer la donne? Qu'est-ce qu'on met en place? Quel mécanisme? Avec qui? Etc. Et l'autre chose, ça a été, alors qui est beaucoup plus éloigné de mes sujets de recherche, ça a été l'annonce là, très récente du renvoi de l'ambassadeur. Enfin, il y a eu d'autres cas. Le renvoi de l'ambassadeur français du Mali, mais je pourrais penser à un truc qui est encore... maintenant, on peut renvoyer un ambassadeur français sans que ça choque personne. Enfin, c'est juste qu'on ne craint pas trop la capacité de réponse de la France. En tout cas, on ne s'encombre pas avec des discours plus diplomatiques. Mais l'autre chose, ça a été... l'affaire des sous-marins avec l'Australie, où la réaction de la France, elle a été terrible, parce que d'une part, ce qui ressort, qu'on l'a appris presque en direct, voire en direct, donc qu'est-ce qu'ont fait les services d'intelligence et diplomatie économique? Il y a quand même un gros sujet à traiter. Deuxièmement, notre réaction a été de dire, oui, puisque c'est ça, on va rappeler notre ambassadeur. Et c'était un peu la réaction qu'aurait eu un petit enfant de 6-7 ans de colère et pas du tout une réaction d'un pays qui est censé être la 7e puissance mondiale, bien que cet élément se discute fortement, enfin peut se discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je pense que déjà il faut commencer par se redoter d'une vision, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller collectivement. Et c'est hyper important dans l'aspect réindustrialisation. Je ne crois pas qu'on puisse réindustrialiser durablement la France si on ne définit pas un projet de société nouveau qui intègre toutes les contraintes environnementales qu'on a. Si on regarde les rapports du GIEC, de l'ADEME, de RTE, on se rend compte quand même qu'en fonction des scénarios choisis, alors on peut faire le scénario de continuer sur la ligne dans laquelle on est, les scénarios qui permettent de limiter le réchauffement obligent à des choix assez conséquents, notamment en termes d'industrie qu'on soutient, d'usage, d'infrastructures et autres. Et si on ne sait pas collectivement où on veut aller, c'est quand même compliqué de définir éventuellement un rapport de force, une position dans le monde, etc. La Chine, qui a Pardon.
Non, vas-y, finis, je t'en prie.
Je vais dire que la Chine, mais qui a d'autres moyens que nous, a un projet qui est plutôt autarcique et donc se donne les moyens de son autonomie totale en réalisant des acquisitions stratégiques, en maîtrisant ses approvisionnements en matières premières à travers les nouvelles routes de la soie, etc. etc. Et en fait, nous, devant ça, on tatillonne, quoi.
Est-ce que juste avant de te laisser prendre la parole, je peux déjà je vais remercier Anaïs de répondre à ma question et la seule petite chose que je voudrais apporter, c'était d'avoir ton ressenti sur le fait de se dire que donc on voit bien face à des structures étatiques comme les politiques européennes, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas plus vite fait d'adopter peut-être quelque chose de radical, mais un modèle comme la Chine qui privilégie ses intérêts nationaux avant à peu près tout le reste.
C'est pas ce que fait un peu l'Allemagne dans l'Union européenne. Je suis pas germanophobe, mais il me semble que l'Allemagne bouge, notamment on le voit très clairement sur la question industrielle, bouge quand c'est parce que l'Allemagne se représente comme un pays ici de production, fait de l'industrie son moteur économique, et l'Allemagne donne quand même le sentiment de bouger quand ses intérêts stratégiques sont remis en question. Et donc, c'est pour dire qu'il y a un exemple plus proche de chez nous et sans contrôle social.
Zilot, tu voulais réagir à ce que disait Anaïs à un moment?
Ouais, effectivement, en fait, c'est sur la question écologique. Je me demandais à quel point elle intègre cette variable dans ses travaux. Et du coup, est-ce qu'elle a déjà pensé à travailler avec d'autres acteurs sur cette question, notamment, par exemple, avec le Shift Project? Et du coup, qu'est-ce qu'elle pense du plan de transformation de l'économie française du Shift Project, par la même occasion?
Alors, j'intègre la variable environnementale dans mes travaux, pas de manière aujourd'hui assez poussée, parce que je vais le dire en toute humilité, quand moi j'ai commencé à travailler sur l'industrie, alors déjà travailler sur l'industrie j'avais un sujet d'admin, et la question de l'environnement, elle était beaucoup moins prégnante, et en fait un côté enfin, c'était assez dur d'aller aborder les deux sujets en même temps. Donc, j'ai un peu peut-être sous-estimé en faisant aussi peut-être que font pas mal de gens aujourd'hui, c'était de mettre la question sociale avant la question environnementale. Et avec le recul, je pense que c'est une erreur. C'est les deux doivent avancer en même temps parce que la question environnementale aujourd'hui va nous obliger à de telles transformations. Si on ne la prend pas en compte, de toute manière, on peut bien faire tout ce qu'on veut sur le plan social. Ça va être cassé par ces obligations de transformation. Je l'intègre beaucoup parce que, aussi sur, beaucoup maintenant, sur les questions de cycle de vie, parce qu'en fait, on va toucher plein de sujets. À travers la question environnementale, on va aussi toucher des questions d'autonomie et de souveraineté, puisque ça, c'est deux modèles économiques des entreprises, parce qu'on potentiellement devoir repenser le modèle économique de nombreuses entreprises. Enfin, donc je l'aborde, mais de manière, je dirais, assez insatisfaisante, parce qu'il y a aussi un truc que j'essaye de craquer et que je n'arrive pas à craquer, ça va m'amener après sur le Shift Project, c'est que eu tous les discours, notamment c'était Descartes qui disait l'humain comme maître et possesseur de la nature. C'est quelque chose, à mon avis, qui est quand même très ancré dans notre civilisation. Donc, c'est comment on arrive à retrouver un équilibre entre un développement industriel, parce que, bon, globalement, on est quand même. Il y a plein de choses dans notre construction de société actuelle qui sont insatisfaisantes. Et en même temps, on a aussi un confort de vie qui est assez appréciable. Et donc, c'est comment on arrive à retrouver ces équilibres? Comment est-ce qu'on peut réindustrialiser en intégrant les questions de biodiversité? C'est-à-dire en n'allant pas forcément artificialiser. Enfin, moi, je suis en principe contre l'artificialisation de nouveaux sols. Sauf que là où l'activité industrielle peut se créer pour faire ces phénomènes d'écosystème, c'est souvent là où on a du bâti en tension. Il n'y a pas forcément de friches disponibles. Et que là où il y a des friches disponibles, ce n'est pas forcément là où on peut créer de l'activité industrielle, en tout cas pas avec un raisonnement écosystémique, c'est-à-dire je développe une activité, puis j'essaye d'avoir mes sous-traitants à proximité et d'avoir des logiques aussi pour... La proximité qui permet aussi d'intégrer des logiques d'économie circulaire, comment on fait des déchets des uns une ressource pour les autres. Tout ça pour dire l'humain maître et possesseur de la nature, et que à travers ces questions d'environnement et de transition, il y a pour moi toutes les notions de futur désirable et d'imaginaire. C'est-à-dire que si on veut que la transformation se fasse avec la profondeur nécessaire, il faut aussi qu'on donne envie aux gens d'aller vers ça. Et donc, je suis pas sûre que les discours de peur, etc., fonctionnent sur certains, notamment, je pense, les plus jeunes générations, mais fonctionnent pas sur beaucoup de gens. Donc, il faut donner une envie de se projeter, et c'est le truc le plus dur à faire. Et ce qui m'amène sur le rapport du Chief Project, j'ai pas lu la dernière version, celle qui vient de sortir là il y a une semaine. J'avais lu les travaux en septembre. J'avais un premier projet en septembre 2021 et il y avait plusieurs choses qui m'avaient questionnée. Et parce qu'à mon avis, le shift n'a pas forcément craqué ce sujet de futur désirable, comment on crée un imaginaire, comment on accompagne les gens dans la transition et avec des vrais sujets. Par exemple, quand on dit on va baisser le nombre de salariés dans l'aéronautique, parce que l'aéronautique n'est pas forcément un secteur d'avenir. Et je pense que ça, pour la France, ça va être assez dramatique, puisque c'est quand même un des secteurs qui tire nos exportations. On va baisser l'emploi dans l'automobile, mais on va en créer ailleurs, dans l'agriculture, dans la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Il y a des questions qui se posent à la fois sur comment on crée durablement de la valeur avec ces nouveaux secteurs, c'est-à-dire est-ce qu'on a un modèle qui est vraiment viable jusqu'à la fin de ce siècle, admettons. La deuxième chose, c'est qu'on est d'un côté, on a un phénomène de concentration géographique, c'est-à-dire l'aéronautique, c'est beaucoup concentré autour de Toulouse et dans le sud-ouest. L'automobile, on a quelques grands pôles de l'automobile. Et derrière, on va être sur des créations diffuses, c'est-à-dire que l'agriculture, c'est des métiers qu'on va créer dans tout le territoire, la rénovation énergétique également. Il y a un moment où comment on accompagne le territoire, parce qu'on a vu, quand on a eu la destruction, par exemple, de la filière textile dans le nord de la France, on a vu les conséquences, et on voit encore les conséquences de ces choix. Donc, c'est comment on accompagne ces territoires dans la transition pour qu'il n'y ait pas de gaz. Comment est-ce qu'on donne aussi envie aux gens qui sont, par exemple, qui travaillent dans l'aéronautique, qui, pour certains... choisit ce métier par vocation à aller vers d'autres secteurs parce que ce sont des secteurs compatibles avec notre nouveau projet de société. C'est l'écoute de ces mutations, comment on les finance. Et je pense que derrière, il y a une vraie question à se poser sur la fiscalité, quelle fiscalité on met en place. Alors, par exemple, les Verts proposent d'un impôt sur la fortune pour financer cette transition écologique. Et je dis pas, je suis là, la réponse que je vais faire maintenant, c'est pas est-ce qu'il faut un impôt sur la fortune ou pas, mais je pense qu'il faut toujours raisonner la manière dont on appréhende les sujets pour essayer d'emmener le plus grand nombre dans cette direction. Comme on est face à des gens qui ont tendance à déterritorialiser complètement, je ne suis pas sûre qu'on arrive à les faire réadhérer comme ça, qu'il y a sûrement des mécanismes plus sioux à penser. Voilà.
Alors, sur le sujet dont tu parlais, a priori, quelqu'un voulait intervenir sur ce que tu venais de dire, Zilote.
Oui, c'est ça. En fait, par rapport à son intervention, il y a un truc qui... En fait, j'ai l'impression que tu penses beaucoup en termes de réindustrialisation et en termes de peut-être planification et par rapport aux possibilités qu'aura la France de peser vis-à-vis de l'étranger par rapport à ses exportations, etc. Comme si, tu avais une idée derrière d'avoir de la croissance encore, en fait. Mais est-ce que, justement, c'est pas un problème, ça, justement ? Est-ce qu'en fait, il faut juste considérer qu'on va devoir faire des choses, de toute façon, qui vont détruire des secteurs, qui vont détruire des emplois, qui vont largement diminuer nos exportations. Et en fait, c'est tant pis, mais c'est tant mieux à la fois, en fait, parce qu'on est obligé.
Alors, moi, le débat sur croissance et décroissance, je le dis en toute humilité, je ne l'ai pas tranché. Et par ailleurs, pas est-ce qu'il faut continuer l'exportation, pas l'exportation, est-ce que si ou ça est bien. C'est juste que derrière ces choix, il y a des vies humaines, il y a des familles. Et quand on regarde les conséquences sociales de ce qui s'est passé dans le nord de la France, si on veut que les gens prennent cette direction, pas en leur disant c'est comme ça, t'as pas le choix, etc. Ça s'accompagne, et ça s'anticipe. D'ailleurs, c'est ce que dit le Shift, et je suis tout à fait raccord avec eux là-dessus. Sur il y a un effort de planification, il y a des efforts de transition, de repositionnement, hein. Notamment les compétences qu'on utilise dans l'automobile ou l'aéronautique, on peut s'en servir dans d'autres secteurs liés à la mobilité, des mobilités douces, notamment le vélo, mobilité collective, et tout ça doit être pensé, à mon avis, faut pas réfléchir en filière auto ou aéro, mais plutôt en filière mobilité, quels sont les problèmes et comment on y répond. Mais je suis peut-être très naïve, hein, mais je pense que quand je dis la notion de futur désirable, c'est peut-être pas les bons mots qu'il faut mettre derrière. Et si on veut aller vers ça, il faut accompagner les gens. Que le choc de la désindustrialisation dans le nord de la France commence à peser dans l'inconscient collectif, commence à pu être des mécanismes d'augmentation de certains votes contestataires. En fait, on ne peut pas se limiter à des logiques comptables. Les gens ne sont pas des machines. On ne peut pas dire on fait moins 40 000 dans un secteur, plus 20 000 ici, plus 20 000 là, et ça s'équilibre, on va recréer autant d'emplois. Ça, c'est bien si on est dans une réflexion comptable et non démocratique. Et je pense que le gros sujet aussi, c'est de poser démocratiquement la question de là où on veut aller collectivement.
Bah, du coup, moi, je vais rebondir sur cette thématique. Est-ce que c'est possible de concilier, on va dire, des attentes citoyennes en termes d'emploi ou de sécurité de vie et des environnements sains et qui ne soient pas destructeurs en termes économiques ou industriels ?
Je pense que c'est compatible à condition de faire évoluer aussi la manière de l'attente, les modes de consommation, les modes de vie, faire comprendre que nos choix ont des conséquences, que quand on décide de s'habiller selon les principes de la fast fashion, ou même à partir de textiles qui sont issus de matières dérivées du pétrole, comme 70% des matières textiles, que quand on veut avoir changé son téléphone tous les 24 mois parce qu'on n'a plus le téléphone dernier cri, en fait, c'est compatible à condition de réfléchir sur nos choix individuels et comment ça se traduit de manière collective. Je sais que la réponse n'est pas forcément... la mieux, mais il y a des vraies questions de choix de société derrière.
Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir en vocal ? Soyez pas timide, c'est le moment. Sinon, on prendra une question qui a reçu quelques votes.
Voter pour les questions.
Hein ? Bah, je vois qu'il y a certaines questions.
Je vais voter pour les questions, moi.
Bah, vas-y, prends le temps d'en lire quelques-unes si tu veux, ça fait pour aussi.
Démocratie pour répondre à mes questions. Je ne vais pas me lancer dans un débat philosophique ce soir. Être ou ne pas être.
Moi j'aurais une question. Alors ça a peut-être déjà été répondu, j'ai fait rapidement tout à l'heure, mais bref. Quelles seraient selon vous les principaux bastions d'industrie à défendre, voire à recréer en France ou en Europe, contre des États comme la Chine notamment qui ont une vision pour 2050 ?
Pardon, excuse-moi, j'ai honte, mais j'ai pas écouté la question. J'étais en train de garder la question sur j'ai besoin d'acheter un vélo.
Non, mais il n'y a pas de
200 euros, c'est en dehors de mon budget. Bah non, mais il faut aller chez Emmaüs.
C'est pas fou.
Pardon, excusez-moi.
Il n'y a pas de souci, je repose. Quels seraient selon vous les principaux bastions d'industrie à défendre, voire à recréer, en France ou en Europe, pour contrer contre notamment des États comme la Chine qui ont une vision pour 2050.
Peut-être en développant notre propre vision. C'est quoi la vision de la France à 2050? On a déjà la vision à 2030, c'est assez flou. Je ne suis pas retournée voir le plan France 2030 parce qu'en général, ça m'amuse beaucoup. C'est des renvois vers des morceaux de discours d'Emmanuel Macron. On n'a pas de... La Chine, elle a une ambition. Il y a d'autres pays qui ont une ambition. Et nous, on dit, OK, on va développer l'hydrogène, on met tant sur l'hydrogène, mais on réfléchit beaucoup en termes de production d'hydrogène, pas forcément en termes d'usage, ce sur quoi c'est vraiment pertinent. Et puis, sur plein de domaines, on est très, très flou. Et donc, on va mettre de l'argent sur la table, mais au final, on peut se demander pourquoi on le fait.
Alors, il y avait Mircif qui souhaitait intervenir aussi, visiblement. Vas-y, Mircif.
Oui, est-ce que vous m'entendez? Parce que je viens de penser que le micro maintenant.
Ouais, on t'entend.
Ok. J'ai envoyé deux liens pour la Calypso 2, par exemple, qui est un système de voile qui actionne un système de propulsion. Alors, c'est il y a plusieurs dizaines d'années, comme quoi... il y a quand même des solutions techniques, alors pas dans les mêmes capacités d'import-export. Et il y a aussi pour tout ce qui est aérien, les dirigeables solaires. Donc il y a des possibilités, mais que penses-tu? Est-ce que demain, ça ne sera pas un mélange de développement de la technologie liée aux réelles énergies renouvelables, telles qu'on peut l'entendre chez... tel que peut le dire Jean Covici. Et paradoxalement, la vie des personnes de Monsieur Tout-le-Monde sera une vie résiliente? Ton avis, ce ne sera pas un mélange des deux?
Si, je pense qu'il y aura forcément un équilibre. Alors, je ne pense pas que la technologie soit la réponse à tout. Je pense qu'en même temps, on a besoin de faire des développements technologiques. Il y avait, par exemple, en France, on a une initiative qui s'appelait Energy Observer, qui essayait d'embarquer différentes... Alors après, ils utilisent l'hydrogène, mais qui est pour le coup pas de l'hydrogène bas carbone, il me semble, mais qui utilise différentes sources d'énergie pour le bateau. Et ils sont en train de réfléchir à développer un cargo, je crois, qui utiliserait des énergies renouvelables. Il y a des solutions, en fait, mais la technologie, elle apporte une réponse. Et puis après, il y a aussi une réponse qui est il faut moins consommer. Enfin, les porte-conteneurs là, qui nous inondent de produits à bas coût, dont la moitié, c'est gentil, finissent à la benne, enfouis, parce que bien souvent, les filières de recyclage, pour certains, il y en a qui n'existent pas. Et quand elles existent, eh ben, on se rend compte que parfois, la matière recyclée est plus chère qu'une matière neuve. Donc, il y a forcément un rééquilibrage à faire pour une taxe. Et puis, il y a aussi se dire que pour un certain nombre d'usages, on n'a pas toujours besoin de toujours plus technique, de toujours... En fait, on devient aussi parfois flemmard. Le robot cuisine qui fait papa-maman... Seb, c'est que j'aime pas la cuisine. J'aime beaucoup Seb, donc c'est très mal. Ce que je fais.
Bravo.
Mais non, mais les questions, elles se posent. C'est-à-dire qu'on veut être de plus en plus assisté dans nos choix, et en même temps, on se dit, ah ouais, mais ça a des conséquences. Donc, à un moment, il faut peut-être aussi aller sur des trucs plus simples, plus vertueuses, moins techniques, donc moins consommateurs de matière, etc.
Alors, il y avait encore des personnes qui voulaient intervenir, mais Bento et Merci, vous êtes déjà intervenus en vocal. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui n'auraient pas encore parlé ce soir, qui voudraient prendre la parole? Allez-y. Non. Bon, Bento.
Moi, je veux bien, sinon.
Feld aussi, t'as déjà parlé.
Je n'ai pas parlé.
Ah, pardon, vas-y.
Ma question, déjà bonsoir et merci d'être venu répondre à nos questions. Ma question, c'est est-ce que vous voyez des impacts que pourrait avoir la désindustrialisation sur la filiale nucléaire française? Je pense notamment à l'usine de Vallourec, qui en 2020 a supprimé un millier de postes, je crois, en France. Non, 350 en France et en Allemagne, au Brésil. Tout ça pour renforcer la compétitivité, à les écouter. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des conséquences sur l'industrie nucléaire française?
En fait, oui. Conséquences de type, c'est aujourd'hui, est-ce que la France est encore capable de construire, si tant est qu'elle veuille le faire ou en vendre, hein? Je ne suis. C'est comme sur la croissance et la décroissance, je n'ai pas tranché mon propre débat interne sur le nucléaire, donc vous ne m'en voudrez pas de ne pas dire il faut. Il ne faut pas, c'est un peu en dehors de, après, mon champ de compétences de répondre à pour ou contre. Mais donc, oui, il y a la question de est-ce que la France est encore capable de produire des centrales complètes, d'assurer les niveaux de maintenance qu'il faut? On se rend compte qu'il y a quand même déjà une pénurie de compétences, une question sur le niveau de formation des personnes qui interviennent sur les centrales. C'est pas enfin, quand on se déleste de certaines compétences ou de certaines activités, il est évident que ça rend difficile la possibilité derrière de maintenir ou de relancer une filière, surtout quand on parle de construire des SMR enfin, en France, ce qui avait été annoncé dans le cadre de France 2030, même si on peut se poser la question de la pertinence de construire des SMR en France, alors que c'est plutôt des projets qui s'exportent. Mais on a un sujet dense, mais qui se pose partout, en fait, dans toute l'industrie aussi, parce qu'avec la désindustrialisation, on a arrêté de former dans certains secteurs où on a tellement dit que l'industrie, c'est un has-been que beaucoup de gens ont conservé une image négative et donc n'ont pas forcément envie d'aller y travailler.
Alors, je vois une question qui a quelques votes. C'est une question de Golo qui dit si on responsabilise les constructeurs en leur laissant la responsabilité de leur production, cela ne va-t-il pas les forcer à développer des systèmes facilement recyclables avec des réemplois de matériaux?
Je ne suis pas sûre. Enfin, la responsabilisation. Enfin, responsabilisation, c'est si on met une responsabilité, enfin, une question légale derrière. Parce que naturellement, en fait, ce qui se passe aussi, ce qu'on voit, c'est que chez beaucoup de gens d'entreprises qui ont envie d'être vertueux sur le plan environnemental, d'entamer des actions, etc., elles sont parfois confrontées à une réalité de marché qui est que, globalement, à deux entreprises faisant le même produit, si celle qui est vertueuse sur le plan environnemental est un peu plus chère, si l'acheteur ne voit pas comment le revaloriser, il va plutôt préférer prendre le produit moins cher. Alors, les choses évoluent lentement, même si on a encore beaucoup de greenwashing, de bullshit et tout ce que vous voulez autour de l'aspect environnemental. La question un peu de la foule à poule, c'est-à-dire est-ce que la question de la, enfin des prix de production des matières recyclées, c'est lié à des questions de volume et que si on utilise beaucoup plus de matières recyclées mé mécaniquement par effet volume, on va baisser les prix ou est-ce que c'est des procédés qui rendent ça naturellement un peu plus coûteux, mais je pense qu'il y a un moment, la contrainte, elle va devoir être un petit peu forte pour qu'il y ait une action.
Ok. Et ben pour les personnes qui voulaient intervenir en vocal, Bento, puis après Immersif.
Oui, bonsoir. Et donc, comme je ne l'avais pas dit la première fois, merci de venir ce soir nous causer. Une question, vous parlez beaucoup de vision, d'une vision qu'il faudrait française, en partie européenne. Qui est censé développer cette vision aujourd'hui, selon vous? Quels sont les organismes, les entités, les corps qui sont censés faire ce travail? Et pourquoi ce travail n'est pas fait? Et également, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos travaux de recherche actuels?
La question est la plus simple. Qui développe la vision? La vision, elle est portée par les responsables politiques, avec qui peuvent les aider. On a un moment, normalement, on devrait estimer qu'un gouvernement et une majorité sont élus pour défendre un projet de société, etc. Ils sont souvent peu à avoir un projet de société assez clairement défini. Derrière, ils se heurtent à souvent une administration, sans vouloir taper particulièrement sur l'administration, c'est pas ça, mais qui fonctionne de manière très silotée. C'est-à-dire, on a des services responsables de ça, d'autres de ça, de ça. Et on sait qu'en général, les frictions, elles se passent aux intersections entre services ou entre directions, et que cette approche silotée ne permet pas d'avoir l'approche systémique dont on a besoin. C'est-à-dire, aujourd'hui, on pense des politiques environnementales, et on pense des politiques industrielles. Et ben, penser des politiques industrielles qui répondent à nos exigences environnementales, qui s'inscrivent bien dans notre stratégie nationale bas carbone, qui respectent des principes de biodiversité, et on ne peut pas les décorréler. L'autre chose, c'est qu'on a aujourd'hui une homogénéité des personnes à la fois dans les postes de la haute administration publique, dans les postes politiques, dans certaines directions de grandes entreprises, avec des gens qui viennent globalement des mêmes écoles. Et c'est pas qu'une école soit meilleure qu'une autre, c'est qu'on a besoin d'avoir des parcours différents pour enrichir notre vision et notre approche. Par exemple, je suis pas une économiste, je suis géographe et j'ai pas du tout les mêmes prismes que les économistes. En plus géopolitique, donc je vais être plus sensible à des questions de rapport de force, de représentation, de rivalité de pouvoir que pourrait l'être un économiste. Et un économiste va avoir une vision sur des facteurs macroéconomiques, des capacités à simuler certaines évolutions, etc., que moi je ne sais pas faire parce que je ne mobilise pas ces outils. Les approches dans la construction de la recherche non plus ne vont pas être les mêmes, mais on se rend bien compte que quand on a des approches interdisciplinaires, et bien la recherche en sort grandit. Quand on a des approches plus systémiques, on arrive à avoir quand même des visions un peu plus globales et un peu plus opérantes, et qu'on ne retrouve pas en fait cette capacité à avoir une vision systémique à l'échelle de l'État, que ce soit par les représentants public ou la haute administration. Quand on va dans certaines administrations, on sait qu'ils sont spécialistes de tel secteur, et puis si on va dans ce service, ils sont par exemple, on a ceux qui vont être spécialistes de l'innovation, et puis dans la direction de l'innovation, après on a dans cette direction, on va dire, des verticales, et puis ce qui se passe sur l'innovation va pas forcément rentrer en lien avec ce qui va se passer, par exemple, au commissariat interministériel aux restructurations d'entreprises, alors que justement, peut-être que des objectifs d'innovation pourraient apporter des nouveaux leviers de développement à des entreprises en difficulté. Et c'est ce mélange et en fait cette capacité à se réadapter qui manque. Et si on n'a pas... du fait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont décidées sans repasser par la case Assemblée nationale, Sénat, donc représentant du peuple, qu'il y a des organismes qui existent comme le Conseil économique, social et environnemental qui sont censés être donner des visions, enfin faire réaliser un certain nombre d'études, mais du coup qui n'est pas un organisme forcément reconnu alors qu'il est assez représentatif de la société civile pour peut-être imprégner une vision qui aurait pu être débattue. Donc on manque peut-être un chose pour permettre de débattre ça. Et mes travaux de recherche, c'est la question la plus simple, ils vont travailler sur deux choses. Une chose qui est un peu difficile à faire en ce moment parce que les frontières sont fermées, parce que je veux travailler sur la Chine et les États d'Asie, sur et ce qui m'intéresse sur la Chine, c'est la proximité entre lieu d'innovation et lieu de production, et comment est-ce que ça favorise le développement de la Chine. leur stratégie d'acquisition stratégique à l'étranger. Donc, je voudrais me pencher beaucoup plus sur la stratégie industrielle de ce pays, mais on ne pouvait pas y aller pendant un certain temps, et même ça va être encore compliqué, je pense, pour tout 2022. Donc, c'est plutôt un axe de recherche pour 2023. Mais je vais commencer là une série d'entretiens avec des gens. J'ai fait beaucoup d'entretiens avec des Français qui travaillent en Chine. Et maintenant, je vais essayer de faire des entretiens avec des personnes, des chefs d'entreprise qui ont exporté en Chine, soit des gens qui, des représentants des autorités chinoises, etc. Et le deuxième sujet, c'est un travail plus sur la relocalisation. Mais est-ce qu'on peut faire des relocalisations, notamment par exemple dans le domaine de la santé, qui ne seraient pas sur les schémas industriels classiques, que on pourrait appliquer l'aspect coopératif sur la création de médicaments, et si oui, sur quelle étape on le fait, comment on le fait, comment est-ce qu'on, en fait, on recrée de nouveaux mécanismes de répartition de la valeur entre les acteurs et qui profite à tous. Voilà. Qui c'est deux sujets extrêmement larges, j'en ai bien conscience.
En tout cas, si tu veux repasser une prochaine pour nous faire de nouveau une intervention au sujet de la Chine, ce sera intéressant, ça agite beaucoup de monde sur le serveur.
Juste une question corollaire, du coup. Est-ce que les personnes que tu as désignées comme devant avoir une vision sont, selon toi, conscients que c'est ce qu'on attend d'eux quand tu leur causes, quand tu les interroges ou quand ils sont interrogés, est-ce qu'ils sont conscients que finalement le monde académique se dit attendez les mecs, vous êtes censés nous filer une vision ou au moins nous donner quelque chose sur lequel bosser et on n'a rien.
Je pense que certains sont persuadés d'avoir d'avoir une vision. Enfin, quand on écoute les gens qui se présentent à la présidentielle, ils sont quand même tous persuadés qu'ils vont sauver la France. Il y a des degrés de... j'ai vu une question à un moment passé sur les programmes des candidats. Je n'ai pas lu encore tous les programmes. Je sais qu'ils parlent tous de réindustrialisation et de relocalisation. Moi, ce que j'ai le plus apprécié dans les échanges que j'ai pu avoir avec les équipes de campagne, parce que le rôle un chercheur, moi je considère que je n'ai pas à donner mon avis, je suis en recherche d'objectivité et je ne dis pas qu'on ne peut pas être chercheur et engagé dans un parti politique, mais moi ce n'est pas mon choix. Et mon choix est de consacrer du temps à tous les partis qui me sollicitent, échanger sur leurs projets, leur vision des choses et leur apporter ma connaissance en tant que chercheuse. Et ceux qui m'ont le plus étonnée, en termes de capacité à avoir une vision, à avoir des questions vraiment fouillées, des choses, tu sais, il y a des gens, ils vont vous interpeller sur des trucs que vous avez déjà raconté 5 fois dans la presse, qui ne sont pas forcément les trucs les plus intéressants, et on a envie de leur dire parfois, et de manière assez condescendante, je le reconnais, mais lisez ce que j'ai fait et posez-moi des questions sur les choses que je n'ai pas dites ou sur les choses qui m'aient pas de répéter ce qui a déjà été dit, tout le monde gagnera du temps. Et la France Insoumise a un programme... Enfin, j'ai vraiment eu en face de moi des gens qui ont posé des questions de détail et que j'ai trouvé assez, assez surprenant, qui essayaient d'avoir la vision la plus large. Quand j'ai échangé avec les partis comme les Républicains, on est très vite sur des sujets, mais est-ce que vous ne pensez pas que le problème, c'est la compétitivité prix, etc. Et je ne dis pas que la compétitivité prix n'est pas un problème, mais quand on voit les transformations qu'on a à faire, d'une certaine manière, il y a la compétitivité prix, puis il y a sauver le monde. Enfin, sauver le monde, c'est caricatural, mais... Il y a se transformer en profondeur. Et si on commence à se dire on ne peut pas le faire pour telle raison, on finira à manger par des dinosaures en 2050. Dinosaures n'existent plus. Au cas où quelqu'un penserait que c'est du premier degré. Ça va être le cas des gens qui sont connectés, mais on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Merci, tu voulais parler tout à l'heure, c'est toujours le cas ?
Non. Ça me va.
Ok. Bon, il y a Théo Dulle alors qui souhaite intervenir. Vas-y, Théo.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez ?
Oui.
Super. Bonsoir à tous. Bonsoir, Anaïs. J'ai 4 questions. Quelles industries considérerais-tu comme nécessaires à reconquérir par la France ? Lesquelles de ces industries existantes la France serait-elle capable de remobiliser actuellement ? La troisième, ça serait quelle industrie tu verrais possible de développer en France tout en respectant une réduction des émissions de carbone progressive jusqu'à net zéro à 2050? Et la dernière question, c'est as-tu un avis sur les low-tech?
Raté une question. J'ai l'industrie pour réindustrialiser, les industries pour la neutralité carbone, les low-tech, et je crois que j'en ai oublié une.
C'est laquelle, Théo? Parce que ton micro grésille beaucoup. Bah, commence par celle que tu veux, en tout cas, Anaïs.
Nous avons perdu Théo. Alors, les low-tech, j'ai pas assez creusé le sujet. Globalement, je pense que c'est un sujet qui mériterait que je m'y penche plus dessus pour avoir une réponse un peu plus scientifique, mais j'ai un a priori plutôt favorable. Alors, la neutralité carbone, ce faut savoir, c'est que même si ça peut paraître contre-intuitif, déjà le fait de réindustrialiser une partie des productions qu'on a, j'arrive à parler, la réindustrialisation est un moyen d'abaisser nos émissions carbone, notamment. Celles qu'on importe. C'est notamment le rapport de l'ADEME qui met ça en avant, où on dit que, je crois, en 2016, l'empreinte carbone de la France, c'est 650 ou 660 millions de tonnes d'équivalent CO2. Et l'empreinte carbone, ce qu'on appelle empreinte carbone, c'est les émissions directes sur le territoire français avec la production de biens destinés à la consommation intérieure, les émissions directes des ménages et les émissions associées aux biens et services importés. Et donc, dans ces 660 millions, 650 millions, il y a une part territoriale de 440 millions. Toute la part importée pour réduire notre empreinte carbone, elle va dépendre de la trajectoire des autres pays pour atteindre nos objectifs carbone. Donc si on regarde le mix énergétique, ne serait-ce qu'allemand, il est moins favorable que le mix énergétique français. En tout cas, nous, on est une énergie qui a une faible intensité carbone. Donc, on a un avantage comparatif de ce point de vue-là. Et ce que disait le rapport GILI-ADEM, et c'était le rapport RTE, c'est que si on relocalisait les biens manufacturés produits en France, on aurait une empreinte carbone qui diminuerait d'environ 75 millions de tonnes en équivalent CO2. Bon, maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est pas forcément parce que l'objectif n'est pas non plus de tout relocaliser sur le territoire national, que ça doit s'accompagner de réflexions sur les volumes consommés. C'est-à-dire on va pas reproduire à volume identique des réflexions sur les produits, la manière dont on les conçoit, donc les choix de matière. Et pour les choix de matières, on parlait des matières recyclées, mais il y a à la fois essayer d'employer des matières qui vont être moins gourmandes en matières premières critiques pour limiter notre dépendance. Mais il y a aussi est-ce qu'on peut avoir des alternatives aux matières pétro-sourcées? Si oui, lesquelles? Comment on les utilise? Et puis à repenser le produit pour qui est un enjeu aussi de compétitivité. Dans le contexte actuel où on essaye d'avoir des produits faits sur le territoire français à coût équivalent à ce qu'on peut faire dans les pays qui vont nous concurrencer. Alors, par exemple, dans le domaine du jouet, ça va être par rapport à la Chine. Et donc, ça va être de réfléchir pour réduire le nombre d'étapes dans la fabrication, réfléchir sur repenser le produit pour réduire certaines matières. Donc, ça va être par exemple moins de vis, ça va être moins de certaines pièces. Et c'est ce mouvement global qui va permettre qui va contribuer à atteindre la neutralité carbone avec un abaissement quand même des niveaux de consommation, ce qui va toucher le modèle économique de beaucoup d'entreprises industrielles qui reposent souvent sur le principe de massifier la production pour abaisser les coûts unitaires de production. Et qu'à partir du moment où on commence à avoir des réflexions sur de la petite série pour limiter les stocks, pour limiter les invendus, à aller vers de la personnalisation, etc. Ou les services, enfin les modifications des usages aussi, c'est-à-dire se dire bon, on a beaucoup globalement, on a tous chez nous, surtout si comme moi vous souffrez un peu du syndrome de l'écureuil et vous avez tendance à tout garder, on se retrouve avec beaucoup de choses qui ne nous servent pas. Et donc la modification des usages, ça serait de se dire bon bah si j'ai besoin qu'une fois, j'achète pas, j'emprunte ou je loue. Soit disons que je connais, soit disons que je ne connais pas d'ailleurs. Et donc, les volumes avec... on consomme moins, parce qu'on devient plus raisonnable, et les usages vont avoir un impact sur le modèle économique des entreprises. Est-ce que on peut tout relocaliser pour des questions de... Vous savez, il y a eu aussi au fur et à mesure des années, certains pays qui se sont spécialisés dans certains domaines plus que d'autres. On a par exemple Taïwan qui est très connu pour sa production de semi-conducteurs. On sait encore faire des semi-conducteurs sur le sol européen, mais pas forcément on sait pas faire les plus petits semi-conducteurs. Et ce n'est pas forcément les marchés qu'on adresse principalement en Europe, d'ailleurs. Si je prends le cas de l'industrie du vélo, donc l'industrie du vélo qui subsiste en Europe parce qu'on a mis des taxes anti-dumping à la frontière européenne et des taxes en plus qui s'adaptent parce que les entreprises chinoises sont allées d'un pays à l'autre. Donc, on a eu une commission qui a su agir de manière assez intelligente, ce qui a permis de maintenir une activité d'assemblage de vélos sur le continent européen et dont profitent la France, mais aussi le Portugal et l'Allemagne. Ce qui est très bien, on a des pièces qui viennent du monde entier. Et donc, il y a certaines pièces... l'enjeu, ça serait d'avoir toute la chaîne de valeur qui se fait sur le territoire français ou européen. Mais on a des entreprises comme, par exemple, Shimano, le japonais, qui sont spécialisés là-dedans et qui ont donc une avance sur les pièces, on va dire, les plus complexes, mais qui sont aussi celles à la plus forte valeur. Et donc, c'est comment est-ce qu'à un moment, on arrive à réacquérir sur le territoire ce savoir et à quel coût. Ou alors, on décide de tous se faire des vélos en bambou, comme la personne qui posait la question. Pardon.
Les questions qui restaient de Théo, je vais les mixer en une seule qui se rejoignent, c'était quelle industrie la France est-elle capable de remobiliser et ou de reconquérir ?
Je pense que le domaine de la santé et de l'agriculture, un, parce que ce sont deux domaines vitaux, deux, parce que on a, j'ajoute santé, c'est se soigner, se nourrir, se déplacer. Sur la mobilité, on a quand même des entreprises qui ont des avantages comparatifs, et notamment sur les mobilités collectives, que ce soit le train, le bus, etc. On a des choses à mon avis à faire, mais il faut être capable de conserver nos avantages comparatifs et de les redévelopper. Se soigner, on a des entreprises, on a Sanofi, mais on a aussi plein de producteurs qui bossent pour Sanofi et autres. Et puis, on a une capacité à innover là-dedans. Donc, il faut y aller sur ce qui va être aussi biotech, medtech, etc. Et se doter d'une ambition et soutenir ceux qui se développent et se nourrir, parce qu'on est en train d'avoir une balance commerciale dans l'agriculture qui est en train de s'écraser. On est en train de faire... C'est terrible, parce que c'est François Bayrou qui a fait ce constat, mais dans une note qui a été publiée en décembre par le commissariat au plan, mais c'est que la France, aujourd'hui, exporte des matières premières dans le domaine agricole qu'elle réimporte sous forme de produits finis. Et globalement, les pays qui ont ce schéma-là sont des pays en voie de développement. Et si on n'est pas capable de reconquérir dans ces domaines, le jour où l'aéronautique soit diminue parce que ça a été un choix collectif, soit parce qu'on a à nouveau une crise et que tous les avions sont cloués au sol, on va être considérablement affaibli. Et par ailleurs, notre deuxième industrie, puisqu'on peut dire que c'est une industrie qui a contribué à créer fortement de la valeur en France, c'est le tourisme. Et le tourisme est quand même un peu mis en berne par le Covid. Et il n'y a aucune certitude que tout reprendra comme avant. Il n'y a aucune certitude. Et la deuxième question, c'est pas forcément une pertinence. C'est-à-dire, est-ce que avoir des flux de tourisme comme on peut l'avoir parfois, c'est compatible avec des questions de biodiversité, de préservation de l'environnement, etc. Et on peut aussi se poser la question. Mais je ne suis pas une spécialiste du tourisme, donc je n'irai pas plus loin que là sur ce chemin glissant.
Ok, ça marche. Je vois qu'il y a Prali qui voulait peut-être intervenir en vocal, ou c'était textuel. Prali, si tu veux.
Ouais. En vocal, du coup, il me semble qu'il y avait Mercif qui voulait parler avant moi.
Oui, mais il s'est déjà exprimé. Toi, on t'a pas encore entendu, donc la prime à toi, si tu veux.
Ok, bah d'accord, je me lance. Du coup, je voudrais savoir si la désindustrialisation avait un rapport avec du coup la dévalorisation constante des filières professionnelles, donc à l'école, et leur stigmatisation au lycée ou en études supérieures.
C'est une bonne question. Et j'allais dire l'œuf la poule, ça fait au moins 10 fois que j'emploie cette expression, et c'est terrible, je chope des nouveaux types à chaque fois, vous avez vu, j'ai abandonné la tarte à la crème pour prendre l'œuf et la poule.
Très bien.
tout va bien. Non, la désindustrialisation, et il y a des débats là-dessus, mais je considère qu'on a quand même un peu abandonné notre industrie en se disant que dans une économie mature, ça devait être une société post-industrielle sur laquelle on pouvait se concentrer sur les tâches dites à haute valeur ajoutée, donc tout ce qui était en amont ou en aval de la production, et que finalement on n'avait pas besoin de garder d'usine pour continuer à innover, etc. etc. Et je pense qu'à partir du moment où on a dit finalement on n'a plus besoin d'usine, eh bien on n'a rien fait pour encourager les gens à aller travailler dans ces activités, considérant que c'était des voies de garage. Et d'ailleurs, hein, il n'y a pas que ce qu'on dit souvent, l'industrie, mais c'est globalement tous les métiers manuels qui ont été dévalorisés, c'est-à-dire les métiers de l'artisanat. Et je pense que l'artisanat a fait une assez grosse campagne, parce que c'est des métiers aujourd'hui qui redeviennent en odeur de sainteté, mais ils ont aussi fait l'objet de ces dévalorisations. Je le vois bien hein, dans certains milieux plutôt, on va dire plutôt intellectuels, quand si on dit, je sais pas comment le formuler parce que j'ai l'impression d'être Nadine Morano quand elle dit moi j'ai un ami machin, mais si on a des potes qui sont dans des métiers type plomberie, charpentier, etc. Enfin, les gens nous regardent comme si c'était genre des métiers des métiers de gens qui n'ont pas réussi leur vie. Je le dis de manière peut-être un peu brusque, mais parfois on a vraiment cette impression-là, c'est-à-dire que ce sont des métiers manuels, on ne les connaît pas, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, on voit pas forcément les savoir-faire qu'il y a derrière, et donc on a quand même encore tendance à produire un discours dévalorisant derrière ça. Et donc tout ça est un peu lié, mais je pense que c'est venu du fait qu'on s'est dit, c'est des théories, hein, c'était Alain Touraine, je crois, dans les années 50, qui commençait à parler des notions de société post-industrielle, etc. Et ça s'est poursuivi. Enfin, on était sur l'entreprise sans usine de Serge Tchourou, qui est toujours cité dans les années 2000, sur les sites de production qu'on pouvait laisser partir comme ça. Et puis on commence à s'en mordre les doigts. Et puis encore des images assez des images négatives autour de l'industrie. je dis pas que tous les sites, enfin, il y a une diversité dans les sites industriels assez incroyable entre des sites où on a des activités très, très manuelles et d'autres qui sont totalement automatisées, où on a des conditions de travail. On va avoir le site qui va être en chauffé l'hiver, climatisé l'été, et puis ceux où il n'y a rien, donc on se les pèle l'hiver, on a trop chaud l'été, ceux où on est en atmosphère contrôlée, mais du coup il fait notamment dans l'agroalimentaire il fait très froid, donc on peut pas dire que toutes les usines sont très belles. Il y en a qui sont très très au fait des conditions de travail, et puis il y en a d'autres qui sont un peu en retard. Mais on a aussi beaucoup, malgré tout ça, malgré cette réalité qui, moi je dis, faut pas la masquer, on a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est l'industrie. On m'a raconté encore il n'y a pas très longtemps qu'une enseignante qui avait emmené son école, enfin sa classe, une de ses classes, voir une usine, était très, elle-même très surprise de voir ce qu'était l'industrie aujourd'hui. Et loin des images de Charlie Chaplin ou autre. Parce que je pense qu'aussi avec la désindustrialisation, les industriels sont repliés sur eux, et il y a beaucoup de gens qui habitent à côté d'activités industrielles. Alors on a l'image de l'activité industrielle, c'est forcément un truc avec une cheminée qui fume. Malheureusement ou heureusement, plutôt heureusement, c'est pas le cas. Et donc beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils habitent parfois à côté d'une usine, ou s'ils le savent, ce qu'elle fait, etc. Et c'est aussi un rôle des industriels de s'ouvrir, de démystifier leur métier. Quand ils ont des activités qui peuvent être polluantes ou à risque ou autres, de s'ouvrir auprès des personnes qui habitent à proximité, qui peuvent être pénalisées par ces externalités, d'ouvrir le débat, voir en fait qu'est-ce qui peut être fait pour à la fois maintenir l'activité industrielle et en même temps offrir un cadre de vie aux gens qui habitent à proximité. Je ne sais pas si je réponds à la question, j'ai l'impression d'être partie, mais à 200 km. Je suis désolé.
Ah, c'est pas grave, c'est intéressant. Merci, tu voulais intervenir ?
Non, non, c'est bon, elle a répondu. Il y a un bon moment à la question que je
d'accord. Posée. Si quelqu'un veut prendre la parole ? Non, alors est-ce qu'il y a des questions qui ont reçu quelques votes ? Le développement de l'agriculture industrielle telle qu'avancée actuellement, drones, senseurs, produits phyto, hypermécanisation, n'est-elle pas une impasse ?
Je dirais un peu de joker parce que je ne suis pas assez spécialiste de l'agriculture. Enfin, je pense assez naturellement pour vivre 80% de mon temps à la campagne et produits phytosanitaires me font absolument pas rire. Après, sur l'usage des drones, etc. Alors après, bon, c'est toujours la question de quel mode d'agriculture on développe, etc. etc. Mais je pense que ça permet une optimisation de l'usage de certains produits, c'est-à-dire plutôt que nous inonder, essayer de traiter les parcelles en fonction des besoins et d'apporter des compléments en fonction des besoins. Ça peut être pertinent, mais bon, tout dépend de dans quelle logique d'agriculture on est. Et voilà. Je connais assez mal l'agroalimentaire, parce que à partir du moment où les matières arrivent dans les usines, avant, c'est vrai que je connais assez mal ce secteur.
D'accord. Et ben, il y avait Bento et après Kamel. Vas-y Bento.
Oui, on a posé plusieurs fois la question des industries qu'on pourrait avoir ou vouloir relocaliser en France. Moi, j'ai envie de poser la question contraire. Vu qu'on sait qu'on doit faire preuve de sobriété, quelles industries, mis à part les plus évidentes, on aimerait surtout ne pas avoir à réimplanter en France, finalement. C'est-à-dire, quel travers éviter quand on est un maire qui... Imaginons une situation parfaite avec un maire et 200 usines qui veulent s'implanter sur sa friche industrielle. Lesquels auxquels il faudrait dire non en se disant que voilà, l'idée de la société qu'on se fait pour demain n'a pas besoin de ce genre d'usine Et donc, finalement, non merci, ce ne sera pas le projet choisi.
C'est une bonne question. Et quelle réponse je pourrais y apporter ? Je pense qu'il y a, peut-être, par exemple, on parlait à l'instant de l'agriculture et des produits phytosanitaires et donc de tous les procédés chimiques qui peuvent être liés à... sont liés à la production de, cette, de ces produits. Est-ce que si on prend tel ou tel engagement environnementaux, c'est pertinent de les relocaliser ? La question peut se poser. Et en fait, je me rends compte que je suis assez un peu mal à l'aise d'y répondre parce que, un, je n'ai pas forcément réponse. Et deux... ça me renvoie un peu sûrement une contradiction. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je dis toujours, j'ai déjà dit peut-être trop de fois là, c'est l'industrie, ça s'intègre dans un projet de société. C'est vrai que d'un autre côté, je me sens, moi, en tant que chercheuse, pas légitime à définir quel est ce projet de société et donc aussi à définir qu'est-ce qu'on doit relocaliser, qu'est-ce qu'on ne doit pas relocaliser. On peut dire qu'est-ce qu'on doit relocaliser ou qu'est-ce qu'on ne doit pas relocaliser en termes techniques, au regard de nos niveaux d'importation, de niveaux d'exportation, de positionnement, de choses comme ça. Mais ce qu'il faudrait bannir, parce qu'on considère que ça ne s'inscrit pas dans ce projet de société, bah c'est presque un avis qui deviendrait... enfin, plus citoyen, en tout cas, je sais pas trop comment l'appréhender. Ce que je me dis, c'est techniquement, tout ce qui va relever de l'activité pétrolière, parapétrolière, etc., dans la logique de la sortie de la dépendance aux énergies fossiles, c'est non, mais. Mais quand je dis ça, j'ai l'impression, enfin, je vous partage un peu mes propres contradictions de chercheuse ou mes propres quêtes existentielles. J'ai l'impression de sortir de mon rôle d'académique. Si, c'est très clair ce que je viens de dire.
Ouais, ouais, parfaitement clair, merci.
Et donc, Kamel, c'est à toi.
Ouais, alors moi c'était plus ou moins une question en fait. Je me demandais est-ce que la fonction de ministre des industries, je sais plus comment c'est actuellement dans le gouvernement actuel, est-ce que dans cette fonction-là il y a une obligation pour la personne à ce poste-là d'avoir des qualités, des compétences ou un certain niveau d'expérience dans le domaine de l'industrie et tout ça, ou est-ce que il faudrait justement plus faire en sorte, enfin demander que les gens à ce poste-là aient des compétences et des vraies compétences en fait, pas juste être à des niveaux de hiérarchie astronomique dans l'industrie.
Alors aujourd'hui c'est Agnès Pannier-Runacher, elle est ministre déléguée chargée de l'industrie. Avant, elle était secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Mais en tout cas, le ministre de l'Industrie dépend du ministre de l'Économie. Et sur son parcours à elle, c'est quelqu'un qui a fait HEC puis l'ENA, qui a dû sortir à l'inspection des Finances. Ensuite, elle est passée par la Caisse des dépôts et des consignations et elle a dû faire, je crois, un ou deux ans, je ne sais plus, chez Faurecia, dans la direction, je ne sais plus, je crois que c'était la direction R&D. Et ensuite, je crois qu'elle est restée à peine un an, enfin, il me semble que c'était un an. Ou 15 mois, mais je crois pas que ça a été 2 ans. Et ensuite, elle est passée à la Caisse des dépôts et dans la filiale de la Caisse des dépôts qui est la Compagnie des Alpes. La Compagnie des Alpes, elle gère l'exploitation de domaines skiables. Et je crois, mais je suis pas sûre parce que on m'a dit ça l'autre jour et j'ai pas vérifié, qu'en Allemagne, on a tendance à prendre des ministres Déjà en Allemagne, dans les postes de dirigeants, on n'a pas du tout la même chose qu'en France. Où, ça, c'est pour contrebalancer mon côté mon aspect germanophobe de tout à l'heure.
Très bien.
Parce qu'ils ont aussi des points positifs, les Allemands. Les gens ont un parcours, enfin, les dirigeants ont souvent gravi les échelons dans les entreprises. Ils sont passés par la case apprentissage. Ils sont docteurs, ils ont des parcours, enfin, il y en a beaucoup qui ont un doctorat ou qui sont ingénieurs. En tout cas, on n'est pas du tout sur le même parcours qu'en France, notamment dans les grandes entreprises, où beaucoup de gens passent par des écoles de commerce ou la haute fonction publique, parce qu'ils sont passés par la case ENA à un moment. Sur les ministres, il y a en général une expérience assez forte dans le domaine d'où ils viennent. Là, alors après, il y a une chose pour contrecarrer ça, c'est que, par exemple, si je regarde la composition de La République En Marche au Parlement européen, on a quand même beaucoup de gens qui sont des experts dans leur domaine, mais qui peinent à avoir une vision politique, c'est-à-dire qu'à un moment, le politique, c'est quand même d'avoir une vision de la société et de conduire un projet de transformation un peu du quotidien des gens, en tout cas d'améliorer leur quotidien. Et quand on a des experts, ils n'ont pas forcément cette vision politique. Ils vont vraiment avoir tendance à penser dans leur champ d'expertise et pas forcément avoir la vision systémique nécessaire. Maintenant, pour répondre franchement à la question, oui, je pense qu'il faut qu'on ait aussi des politiques qui sachent faire de la politique, mais qu'on ait aussi des ministres qui connaissent vraiment le secteur dont ils parlent, les réalités. Je crois qu'il y a des choses pour en parler. Il faut aussi les avoir un peu expérimentées dans sa chair. Il y a des réalités, on peut les saisir parce qu'on nous les dit, mais quand on n'a pas vécu certaines choses, certaines frustrations, certaines violences symboliques et autres, c'est compliqué de pouvoir représenter la diversité. Enfin, la diversité des parcours et donc de comprendre un peu ce qui se passe partout. Donc non, je trouve qu'un an de parcours industriel, dire qu'on a une carrière dans l'industrie quand on a fait un an dans l'industrie à des postes de direction, c'est un peu abusé.
D'accord, d'accord. Alors il y a eu une question qui a eu pas mal de sollicitations, c'était quid du coût énergétique des matières premières et des capitaux pour réindustrialiser ? Sont-ils pris en compte dans l'étude d'impact environnemental ?
C'est une bonne question. Est-ce que c'est pris en compte dans les... En fait, souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a à la fois des gens qui ont des approches très linéaires, c'est-à-dire se dire ce qui se passe maintenant, si on augmente les usages, on tire une droite. Et donc, on va mécaniquement augmenter les consommations de matière et les usages en termes électriques, ce qui n'est pas forcément juste parce qu'il y a quand même des mécanismes d'optimisation, d'amélioration des process, etc., qui tendent à relativiser ça. On a quand même des gens qui le font quand ils raisonnent sur le cycle de vie du produit, et puis on a aussi des gens qui sont en train de se dire on raisonne qu'à une étape, et puis on ne garde pas le reste. Donc je dirais c'est fait, mais peut mieux faire.
Ok. On a déjà fait plus d'une heure et demie d'entretien. Est-ce qu'il y en aurait encore qui souhaiteraient intervenir en vocal, qu'on n'aurait pas encore entendu ce soir ?
J'aime beaucoup la personne qui dit un petit séjour en chaîne à l'abattoir avant de devenir ministre, ça forge. Oui, assurément.
D'expérience personnelle, ça m'a marqué en tout cas. Ouais.
Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des réalités. Si on ne les a pas vécues, ça produit la magie au salon de BPI France. Quoi. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a trouvé.
Et ben tiens, il y a
des conseils.
Oui, pardon.
Aussi des conseils de notre ministre à une personne qui est locataire, elle lui a conseillé de changer de chauffage. Donc, c'est peut-être à mettre dans les perles de la politique.
J'avoue. Cap qui veut intervenir. Et d'ailleurs, on remercie tous très fort Cap, parce que c'est grâce à lui qu'il y a l'entretien ce soir. Merci beaucoup, Cap. C'est à toi.
Merci, Cap.
Surtout, merci, Anaïs. C'est surtout.
Donc, évidemment.
Bonsoir, Anaïs. Juste, bonsoir. Moi, une petite question rapide. Parce que là, en effet, on parle de réindustrialisation, mais avant même de la réindustrialisation et de parler juste d'industrie, comment on fait, est-ce que c'est dans ton, on va dire, dans ton cursus de recherche, de voir en fait comment on protège nos industries, que ce soit de la fuite des cerveaux, que ce soit, on va dire, de la fuite de nos savoirs. Alors bon, on a eu l'exemple d'Alstom, hein, avec l'histoire des turbines, etc. Là, il y a un exemple qui est beaucoup plus récent, je ne sais pas si tu en as entendu parler, concernant Sigfox sur Toulouse, qui est un spécialiste de l'IoT, et qui malheureusement a dû revendre une partie de sa branche justement spécifique d'équipement pour faire, on va dire, les communications, enfin bref. Juste savoir aujourd'hui, est-ce que les responsables d'entreprise ont des formations, ont de la capacité derrière à être conseillés par, l'État, les sociétés sensibles comme Alstom, etc., ont-elles des aides de la DGSI et autres, services de l'État pour pouvoir se protéger et garder en fait notre savoir.
Alors, encore une fois, hein, quand on voit l'affaire australienne des sous-marins, on peut se poser la question de notre capacité à fournir de la bonne information. Plus sérieusement, on a, je pense, un déficit de connaissances des entrepreneurs dans le domaine, tout ce qui va toucher intelligence économique, mais je l'entends de manière large, hein, qui peut être aussi protection de données, protection contre les risques cyber, etc., qui sont des sujets qui sont en train de monter, mais qui sont, à mon avis, assez peu intégrés par les chefs d'entreprise, en tout cas par beaucoup d'entre eux, je dis pas tous. L'autre chose, c'est que la France, il y a un sujet à un moment d'être capable de préserver les actifs stratégiques. Donc, il y avait le décret Montebourg, mais on ne le met pas forcément souvent en œuvre. On l'a mis en œuvre assez récemment là, pour l'entreprise dans le domaine de l'armement, dont j'ai oublié le nom, qui a été racheté par un fonds d'investissement qui s'appelle HLD. J'ai juste retrouvé le nom de cette entreprise. HLD qui a déjà des participations. Photonis, qui devait être vendu à un groupe étranger. Il y a eu un blocage de la ministre des Armées. C'était une des rares fois, mais il y a plein de choses qu'on laisse partir, et notamment des startups qui... Des startups, soit parce qu'elles sont rachetées, soit parce qu'elles ne trouvent pas de capitaux français, donc elles sont obligées de... Enfin, il y a celles sur lesquelles on fait des offres, et celles qui sont obligées de se vendre à quelqu'un d'autre pour pouvoir continuer à croître. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu en retard là-dessus. On est aussi en retard en termes de diplomatie économique, etc. Donc, il y a un gros boulot à faire. Les services français font quand même une partie du job, font une partie du suivi, etc. Mais il y a parfois des alertes qui sont lancées et qui ne font réagir personne, parce que l'entreprise n'est pas dans le radar, ou parce que c'est un secteur qui n'est pas forcément celui qui intéresse, ou autre.
Parfait, merci Anaïs.
Ben toi, Anaïs, est-ce qu'il y a des points que tu aurais souhaité aborder ce soir, qu'on n'aurait pas encore parlé?
C'est beaucoup de choses.
On n'a pas parlé du Covid, sur l'impact que ça a pu avoir au niveau industriel, mais bon, On va peut-être beaucoup trop parler du Covid dans plein d'autres occasions. Je ne sais pas si c'est la peine de relancer là-dessus. Non, ça n'a pas l'air de vouloir. Non, n'importe. Ah bah, Bento, vas-y.
Oui, donc le sujet est venu sur la table, justement. J'ai parfois discuté avec des personnes qui étaient dans le tissu économique, donc des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs qui disaient que on avait de gros problèmes de financement en France, dans le sens où des très petites entreprises ou des PME trouvaient assez facilement des financements aujourd'hui, que ce soit dans la tech ou ailleurs. Par contre, dès qu'il faut passer à l'échelle, donc passer du stade de PME à ETI, on ne trouve plus personne. Et en fait, toutes les personnes qui sont censées gérer l'épargne française sont incapables de... Enfin, ont vraiment pas cette culture de donner ce genre de financement. Et donc, du coup, c'est des PME qui se retrouvent avec l'obligation, effectivement, de déménager à Boston ou ailleurs et qui quittent finalement le terrain national. Dans l'interview de Thinkerview, vous avez dit que la BPI revenait un peu sur ça. J'aimerais bien que vous puissiez nous en dire un peu plus sur ce sujet. Et est-ce que vous avez des conseils ou des préconisations vis-à-vis de ce fait?
Globalement, quand des entreprises commencent à être en difficulté en France, il y a quand même une frilosité des acteurs. Et donc, elles ne trouvent pas forcément toujours l'aide dont elles auraient besoin et l'appui financier. Notamment parce qu'il y a aussi des règles européennes avec Bâle 2, Bâle 3 sur le ratio d'endettement des banques et donc par rapport aux entreprises qu'elles soutiennent, qui accentue sûrement cette frilosité. Il y a qui est lié parce que la suite logique, quand on dénigre les métiers manuels, quand on dénigre les activités industrielles, c'est que quand on veut aller financer des projets dans l'industrie, on trouve souvent beaucoup moins de facilité financière que quand on veut le faire dans les services. Et donc, les PME peuvent trouver des difficultés quand elles veulent croître et donc elles ont besoin d'un vrai soutien financier pour investir si elles n'arrivent pas à le faire en fonds propres. On a les startups industrielles qui, si maintenant, et notamment il y a le plan là, qui a été annoncé par le gouvernement français qui veut mettre 2,3 milliards de soutien aux startups industrielles, mais c'est 2,3 milliards sur les phases 2 et 3 de développement, assez peu sur les phases d'amorçage et de pré-industrialisation. Et donc on dit 2,3 milliards, mais il y a diversité de fonds, il y a du fonds de fonds, il y a de l'aide, de l'avance remboursable, il y a plein de choses. Donc BPI a commencé à faire des choses, qu'ils ont soutenu des projets industriels. Après, je trouve que c'est une banque qui manque encore de culture industrielle et de connaissances, et qui parfois regarde trop selon les règles de rentabilité classique et pas forcément selon le temps long de l'industrie que ça gagnerait à mon avis à être renforcé de profils vraiment industriels, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'industrie, qui connaissent les réalités, les contraintes industrielles et qui seraient capables d'avoir peut-être des compétences. Et ils ont des experts, d'ailleurs. Ils ont quelques experts qui viennent vraiment du monde industriel, mais je pense qu'il pourrait y en avoir plus, notamment dans les gestionnaires de certains fonds de BPI et autres. Puis BPI, parfois, sur certains dossiers, quand il y a BPI en actionnaire, ils sont parfois la banque publique d'investissement se comporte de manière un peu discutable. Mais bon, elle a le mérite d'exister, de faire des choses. Et après, je pense qu'il y a aussi des sujets, c'est comment parce qu'il y avait une question là-dessus sur la mobilisation de l'épargne des Français au-delà du livret A. Et pour le coup, j'ai pas forcément de réponse parfaite là-dessus, parce que la mobilisation de l'épargne des Français, c'est le vieux serpent de mer dont tout le monde parle. Mais il y a des plateformes qui commencent à émerger que je trouve assez intéressantes pour flécher soi-même son épargne avec des choses comme Mimosa dans le domaine agricole ou Épargne Occitanie pour financer des projets à proximité. Après, les les règles d'intérêt, etc. On peut les discuter, mais je trouve que le principe est intéressant. Et puis, il y a peut-être des réflexions sur des développements de fonds. Alors, je ne sais pas si on les appellerait fonds citoyens ou autres, mais sur peut-être comment aller mobiliser une partie de l'épargne salariale vers du soutien à l'investissement dans des projets français avec la recherche de vrais critères de transparence. Par exemple, des boîtes qui sont, on va dire, un truc un peu simple, mais qui paient vraiment leurs impôts en France. Il y a sûrement le besoin de constituer un fonds souverain français aussi. Et puis après, il y a des mécaniques. Mais ça, chacun de faire en fonction de ses moyens, de son aversion au risque, etc. Mais il est aussi possible maintenant, bon, en fait, si peut-être prêt à tout perdre, alors que le livret A, on gagne grand chose, mais il y a une garantie de ne pas perdre les fonds placés, mais sur l'investissement direct dans des entreprises qui bénéficient d'ailleurs d'un crédit d'impôt, je crois, de 20 ou 25%, avec la condition de rester à 4 ou 5 ans dans le capital de l'entreprise, mais qui peuvent être des leviers pour amener des fonds à des entreprises, c'est-à-dire se dire si on ne trouve pas les mécanismes qu'on souhaite, si les changements ne vont pas aussi vite qu'on le veut, bah parfois il faut créer sa propre voie pour contribuer à changer notre société. J'allais dire le monde, mais c'est un peu naïf.
Pourquoi pas?
Après tout, c'est bien le but de ce débat, c'est de changer, essayer de changer le monde.
C'est ça. Soyons fous, rêvons grands. On va pas tarder à couper l'enregistrement. Avant ça, Zilote et Kamel, qui souhaitent intervenir, Zilote.
Ma question, elle est un peu provoque, peut-être, mais du coup, la question, c'est plutôt, est-ce qu'au lieu de penser réindustrialisation, il ne faudrait pas penser désindustrialisation, quand on voit que la plupart des industries sont néfastes, que la plupart des startups font du vent, produisent des biens d'hyperconsommation, que par exemple toute l'industrie textile, en tout cas en grande partie, c'est de la fast fashion qui consomme énormément soit de l'eau douce, soit des matières premières, soit demande de déforester de nombreux hectares de forêt pour cultiver du coton, nécessite parfois du pétrole. En fait, pour rien, parce qu'on pourrait faire des vêtements beaucoup plus durables. En fait, est-ce qu'il ne faudrait pas juste désindustrialiser de façon assez globale la société? Et pour le coup, peut-être qu'on s'en porterait même mieux.
Alors aujourd'hui, on est assez profondément désindustrialisé. Hein. On a 11% de l'industrie manufacturière dans le PIB. Et justement, les mouvements qui se font de relocalisation, notamment dans le domaine du textile, sont plutôt des projets plus vertueux sur le plan environnemental et sur les mécanismes de répartition de la valeur. Tu as une entreprise comme 1083. Alors, il y a une entreprise comme Opal. J'ai un doute, je ne sais plus si c'est Opal ou Democratie. Non, c'est pas... Enfin, il y en a un des deux. Je crois que c'est Opal qui a communiqué exactement sur un t-shirt vendu 25 euros, la répartition des coûts. Et la marge et leur marge à eux, donc je trouvais que c'est des démarches bienvenues aussi pour expliquer la décomposition du prix et pourquoi ce prix est celui-là et pas un autre. On a pas mal d'entreprises françaises qui disent aujourd'hui nous on vend en prix juste toute l'année, donc on n'a pas besoin de faire de solde, et qui refusent le mécanisme de solde. Et on a des entreprises comme 1083 qui ont des vraies réflexions sur leur chaîne de valeur, à la fois sur penser des produits qu'on peut recycler, inventer les mécanismes de recyclage des matières, travailler dans des démarches de co-développement avec à la fois ses fournisseurs, mais aussi des entreprises de la même filière, mais pas positionnées de la même manière, pour essayer de que chacun soit dans une dynamique de développement sans... empiéter sur l'autre, avec des réflexions sur dans les choix de matières aussi, des matières qui vont être moins consommatrices d'eau, et puis ça peut monter très loin dans la filière avec le lin, même si avec la question du réchauffement climatique on peut se poser des questions sur l'avenir du lin, mais mais qui ne sont pas dans cette logique de dire regardez, c'est vachement bien parce que j'utilise du coton bio. Le coton, même bio, à ma connaissance, consomme énormément de ressources en eau.
Mais justement, c'est ça le problème. C'est, en fait, le problème, finalement, c'est peut-être pas forcément. Enfin, c'est bien entendu la production qu'il faut changer, etc. Et la façon dont on récupère les matières premières, mais, et aussi toute l'industrie chimique derrière. Mais en fait, est-ce que c'est pas juste arrêter de consommer, en fait ? Diminuer drastiquement la consommation au niveau des citoyens, et puis du coup juste, ça veut dire tuer en partie l'industrie textile, en tout cas un grand nombre d'entreprises.
Mais à un moment, vous aurez toujours besoin de procédés industriels, de
procédés
chimiques pour le médicament, et aujourd'hui, beaucoup de ces activités ne sont pas faites sur le territoire français, donc la désindustrialisation, si elle devait se produire, pas à l'échelle de la France, c'est plutôt à l'échelle
globale.
C'est-à-dire que je préférerais toujours quelque chose produit en France avec des standards environnementaux et sociaux hauts, avec une maîtrise sur mes consommations de matière et autres. Mais de toute manière, il y aurait une question d'effet sur les volumes. Ça, je suis convaincue. Donc, ça va dans le sens de la désindustrialisation. Mais enfin, c'est peut-être pas le mot désindustrialisation qui est le bon, parce qu'en fait on va garder une activité industrielle, on va faire revenir une activité industrielle, mais on va plus être forcément dans les mêmes volumes ou dans les mêmes logiques. Bon, je réponds, je pense que c'est le mot dire désindustrialisation qui me chagrine.
Pas de souci. Bon, une dernière question avec Kamel.
En vrai, c'est un peu hors sujet maintenant que j'y pense. Ma question, c'était au niveau de la cyber en usine. En fait, est-ce que au cours de vos recherches, vous avez le sujet de la cybersécurité en usine a été abordé avec les gens que vous avez pu interviewer. Est-ce que, enfin, quelle synthèse vous en avez retenu? Est-ce qu'ils se sentent suffisamment encadrés ou pas?
Je pense qu'il y a du boulot à faire dans le domaine de la cybersécurité, notamment parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été soumises à des attaques dans ce domaine-là, qui peinent à se prémunir, mais ça va de sécurité toute simple à... C'est-à-dire comment sortir son ordinateur, c'est pas exactement le bon mot, mais... pas la bonne formulation, mais les usages qu'on va faire sur Internet, des choses comme ça, à des choses plus fondamentales. C'est un moment quand on a, par exemple, la protection de certaines données ou zones, quand on a des étudiants étrangers qui viennent dans certaines entreprises, est-ce que... Et la réponse, elle n'est pas simple, hein, parce que je ne dis pas qu'il faut faire de la discrimination, etc. Mais quand on a, si on a des étudiants qui viennent de Chine, par exemple, est-ce que, quand on sait la politique de la Chine en termes de vol, etc., est-ce qu'on doit avoir la même politique d'ouverture à tout? Comment est-ce qu'on préserve à un moment les données, certaines recherches dites confidentielles? Et en fait, on se rend compte que y a soit un côté un peu paranoïaque, c'est-à-dire un visiteur extérieur, il ne va pas avoir le droit d'accéder à plein de choses, et puis aussi bien, on ne va pas forcément essayer de se dire que la menace, parfois, elle ne vient pas du visiteur qui vient comme ça, mais elle peut venir par d'autres leviers, du hacking, etc. Et donc, je pense qu'il y a un gros effort à faire. Il y a une méconnaissance, même s'il y a des entreprises qui se développent là-dessus, moi je trouve qu'il y a une méconnaissance. Et puis sinon, après ils tombent dans des travers où ils mettent des protocoles en fait super chiants qui au final n'apportent pas forcément de la sécurité là où il en faut on met pas la sécurité là où il faut, et du coup on met des protocoles tellement lourds que on pousse les gens à chanter le système. Et l'autre chose, c'est parfois des trucs très bêtes, hein, mais quand je vois des gens qui laissent leur ordinateur sur leur table dans le train, qui vont à prendre un café, on peut se poser la question de la sensibilité au risque, des gens qui ont des conversations confidentielles dans des lieux publics. On ne sait jamais à côté de qui on est. Voilà. Mais là, je m'éloigne un peu de la cybersécurité en disant la conversation dans les lieux publics et les vols d'ordinateurs dans les trains.
Bien, bien, bien.
Du coup, si je peux juste en dernière question pour Anaïs, car je l'ai écrite un petit peu plus haut, je serais curieux d'avoir votre point de vue, Anaïs, sur la corrélation que pourrait avoir la réindustrialisation, mais avec l'automatisation qui est de plus en plus présente dans notre société, et de voir est-ce que c'était pas un penchant légèrement déviant de réindustrialiser en sachant qu'on va, pour optimiser le rendement, créer moins d'emplois. Est-ce que ça allait pas créer, entre guillemets, plus de problèmes qu'en résoudre ?
Je sais pas, parce que... Le sujet, c'est qu'on va créer des emplois. Enfin, ces mécanismes-là, en fait, l'industrie, elle avait un intérêt, c'est que c'était un peu. Les usines, c'est un peu une mini-représentation de la société. C'est-à-dire qu'on avait des gens très qualifiés et des gens tout qualifiés, mais qu'on pouvait permettre aux gens pas qualifiés d'évoluer quand même dans l'entreprise. Et il y avait, d'une certaine manière, une place pour tout le monde. Et qu'à partir du moment où on va automatiser de plus en plus, on va pas forcément avoir besoin des mêmes compétences. Parce que on dépanne pas de la même manière une ligne très automatisée qu'une machine. On a besoin de compétences en ingénierie qui sont pas exactement les mêmes, notamment beaucoup plus de compétences sur les sujets data, algorithmes, etc. Et donc ça va poser des questions. Moi, j'ai toujours tendance à dire que d'une certaine manière, mais c'est un avis qui est un peu personnel. Moi, je préfère dire créons de l'activité. Alors après, bon, il y a toujours les débats. Je ne mets pas de côté les débats croissance, décroissance, etc. Mais pour moi, l'enjeu numéro un, c'est de créer de la valeur sur le territoire, financer notre modèle social. Et à créer de la valeur, enfin, si on crée de la valeur, on saura comment la répartir. On pourra envisager des réflexions sur le temps de travail, sur peut-être des choses comme le revenu universel ou le salaire de base, ou je ne sais plus, parce qu'il y a des dénominations selon les courants de pensée différentes. L'enjeu, c'est créons de la valeur saine dans les territoires, et ensuite on saura la répartir. On peut créer de l'emploi. Bien entendu, le but aussi, mais je m'opposerai pas des. Enfin, je pense pas qu'il faille comme antinomique.
Simplement, est-ce que vous pensez que dans la vision qu'ont nos États, est-ce que vous pensez qu'ils passeront par une réindustrialisation sans l'automatisation ?
Réindustrialisation sans automatisation ?
Oui, ou en tout cas en privilégiant l'humain avant la machine.
En fait, ça n'a pas beaucoup de sens de réfléchir comme ça, en fait. Enfin, ouais, je vais laisser Anaïs répondre. Mais...
Non, mais c'est surtout que je pense qu'il y a aussi un moment où l'automatisation, elle a du bien et du mal. C'est-à-dire, on peut la considérer mal quand elle est faite volontairement pour détruire des emplois, mais en même temps, elle a permis d'améliorer la qualité de vie au travail et que globalement, demain, on automatise très faiblement certains sites, on revient sur du travail à la chaîne, sur des métiers pénibles, etc. Et que c'est pas l'aspiration de beaucoup de gens, et que l'aspiration de plus en plus des jeunes générations, c'est de l'autonomie, des métiers qui ont du sens, etc. Donc, j'ai du mal à y croire. Ça me semble pas forcément... ce que les gens cherchent, même si je comprends le sens de la question. Mais peut-être que la personne qui est intervenue en me redonnant la parole complétera. Elle a commencé. Intéressant.
Déjà, enfin, personnellement, je suis de ce milieu. Et en fait, juste penser une mise à l'échelle sur la plupart des industries pour fortement les automatiser, c'est une vue de l'esprit. Ça demande des ressources qui sont incroyables. Et donc, en fait, penser que même en France, que même il y a un pays qui peut automatiser une large partie de ses usines, même juste une entreprise,
une entreprise, ça se ferait. Par exemple, Amazon peut automatiser des entrepôts assez facilement et le fait déjà. Mais en fait, ça a un coût, ça a une complexité. Et surtout, c'est absolument pas quelque chose de systématisable à toute une économie. Donc en fait, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas un facteur vraiment réducteur sur la question de la réindustrialisation.
Ok, ben merci de votre réponse à tous les deux.
Merci, on va couper rapide ta question pour terminer.
C'est en rapport avec l'intervenant, le vice-amiral, qui nous disait, il nous avait parlé de l'ordre mélien, de la discussion mélienne, qui en gros, il faudra que je relise la phrase, mais que fait-on si les autres pays ne jouent pas le jeu? Comment on va faire pour rester, par exemple, compétitif au niveau de l'industrie militaire, de la haute technologie, tout en essayant de réduire notre consommation. Imaginons un pays en face comme les États-Unis ou la Chine qui continue à essayer de pousser à la croissance et donc à une économie, à des entreprises de plus en plus grosses et de plus en plus puissantes. Comment on va faire pour en même temps être résilient face à des systèmes qui ne veulent pas le devenir?
C'est toujours la question des rapports de force. Il faut partir du principe que on a essayé d'être les naïfs, hein, les gentils, en se disant que tout le monde allait s'aligner sur nos standards et que ça ne s'est pas fait. Donc, c'est pas des logiques de guerre ou d'agressivité ou autre, mais il faut à un moment se donner les moyens. De force, et c'est pour ça que je pense que ça se passe plus à l'échelle européenne qu'à l'échelle française, et qu'en même temps c'est très compliqué de parler à 27. Donc je vais peut-être terminer sur un paradigme ou une question non résolue. Je n'ai pas forcément une réponse idéale.
C'est pas mal de terminer sur un paradigme.
C'est une logique, ouais. d'idiot plus que de gentil, mais bon. Parfois, il faut être gentil avec les gens. Donc, on les traite pas d'idiots. Si c'est quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, moi, je trouve ça hyper. En général, c'est vexant. C'est comme de dire de quelqu'un qu'il est brave.
Ok. Bon, on va couper le podcast pour ceux qui nous écouteraient en différé. Encore merci à Anaïs. Et puis, pour terminer sur un petit clin d'œil traditionnel et parce qu'il y a beaucoup de gros lecteurs ici, est-ce que tu aurais quelques bouquins ou des lectures ou qui t'ont plu ou qui collent avec ce dont tu as parlé?
Qu'est-ce que j'ai lu là récemment? Faudrait que je me réinvente, non, je peux pas donner les mêmes conseils de lecture à chaque fois. Je suis en train de réfléchir à des trucs que j'ai lus qui m'ont marqué. Est-ce que vous me laissez un joker, genre, et je peux répondre dans 5 jours, le temps de réfléchir. J'ai lu des trucs intéressants, mais je cherche des trucs intéressants qui n'étaient pas...
De toute façon, on mettra le podcast en ligne, on donnera le lien du site et tout, et on pourra rajouter quelques liens de sources ou autres en dessous de l'article. Pas de souci, c'est pas pressé.
Ce que j'ai lu qui était bien, que j'ai bien aimé, c'est le travail de Baptiste Morisot, il y a un Z, c'est Morisot. Je sais pas très bien pour prononcer le nom. Notamment, il a écrit un livre qui s'appelle Sur la piste animale. Il a beaucoup travaillé sur le rapport à notre environnement, à l'écosystème. Et donc, j'ai trouvé que c'était une lecture assez. J'ai bien aimé. Lire ça, conseil de lecture, et puis après je vais réfléchir.
Ça marche, super, excellente intervention, et puis on essaye de te réinviter pour un prochain livre blanc sur la Chine, peut-être, on verra quand tu seras dispo ou si t'en as envie.
Non, mais quand j'aurai travaillé sur la Chine, surtout, parce que là j'ai vu qu'il y avait des questions, j'ai intérêt à être au taquet, quoi. Sinon je vais me faire éclater. Sinon on peut faire un livre blanc inversé, c'est-à-dire je viens avec mes questions sur la Chine et vous m'apportez vos réponses.
Ok, c'est de bonne guerre. Il y en a en préparation en plus. Avec plaisir. Bon, allez, merci à tous. On va couper le mode d'enregistrement.